Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 22e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle
peut.
Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 janvier 2005, jour de la Saint-Thomas d'Aquin. Bonne fête à tous les Thomas d'Aquin.
Bonne fête.
Bonne fête.
Le thème de l'émission d'aujourd'hui, les bistrots, sujet ô combien connu de toutes les personnes assises autour de cette table.
Non, non.
Si, bonne fête aussi, hein.
Quand même. Jamais. On le sait que vous allez au bistrot, les gars.
Bonne fête, Thomas.
Bon.
Thomas d'Aquin, moi j'en connais pas.
Bonne
vous
fête
en connaissez
quand même.
Des... Ben, bonne fête quand même, oui. Donc, aujourd'hui avec nous, comment fait-elle pour regarder autant la télé alors qu'on la croit si souvent dans les bistrots à la mode ou pas? C'est ce qu'elle va nous expliquer aujourd'hui, Béa.
Oui, c'est effectivement ce que je vais expliquer, mais rapidement.
D'accord, bah écoute, c'est très bien aussi, hein, c'est la qualité qui compte, pas la quantité.
Ah.
Elle adore aller dans les salles obscures pour regarder du cinéma, mais elle adore aussi aller dans les salles éclairées pour faire son cinéma. Flo.
Ouais.
Ouais.
Oui, oui.
Je parle des bistrots, les salles éclairées pour faire ton cinéma.
Oui, d'accord.
Et tu vas nous parler de quoi, toi, aujourd'hui?
D'un dictionnaire qu'on trouve pas dans les bistrots.
Bah, de plein
mais
de choses.
Mais qui parle des bistrots. Ouais. Et puis un petit peu d'un film aussi, si j'ai le droit.
Je le savais. D'accord, bah on attend ça, comme d'habitude, avec impatience. Ce n'est pas parce que l'on est ivre qu'il ne faut pas garder sa dignité, c'est sa devise, enfin jusqu'à un certain point. Cray.
Jusqu'à un certain point.
Eh ben d'accord, oui, de toute façon, si c'est une devise, je ne la connaissais pas, je la fais mienne, tiens, elle me plaît bien.
Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler...
Eh ben je vais parler des bistrots en général, comme on aurait pu s'y attendre. Pas du tout, au contraire, je vais parler des bistrots en particulier. Je vais parler de mes expériences que moi j'ai eues avec certains bistrots qui m'ont particulièrement plu, qui va quelque part justifier mon amour des bistrots et puis pourquoi j'aime aller au bistrot et je vais défendre la cause des bistrots.
Voilà. Eh ben bravo, tu es un bon français.
Exactement.
Avec son goût pour la littérature et ses chemises à rayures, on pourrait penser que c'est un adepte des cafés philosophiques. Eh bien pas du tout, c'est plutôt un adepte des bars à vin, à bière et autres boissons rafraîchissantes et euphorisantes, des bars où l'on raconte plus volontiers les dernières blagues à Toto que celles de Bernard-Henri Lévy. Numa.
Oui.
Ça va bien?
Oui, moi ça va.
Ouais. Je te réveille?
Non, pas encore.
Et donc tu vas nous parler de quoi exactement?
De Cocor.
De Cocor.
Kezako.
C'est un auteur de bande dessinée.
Et
il s'appelle Cocor, il a fait donc c'est pas sa première BD, mais là notamment il a sorti, ça s'appelle Le Commun des Mortels. Et c'est très bien.
Eh ben écoute, magnifique.
Et donc je ne ferai pas Cocor Tator parce que j'ai pas envie de chanter.
C'est honteux.
Je sais.
C'est bien triste. Alors aujourd'hui c'est un événement particulier pour nous, c'est la 22e. C'est classique, hein, ça arrive qu'une fois, mais c'est classique quand même. Mais c'est aussi nos 2 ans.
Anniversaire.
Nous-mêmes.
Donc c'est exactement le 23 janvier 2003.
Qu'on a fait la première.
Vache, alors on est encore plus vieux.
Ouais, ça ne vous rajeunit pas tout ça.
Hein. J'ai vieilli.
On va être le 28. Ouais,
donc pour les 2 ans. Pour les 2 ans, on va faire péter le champagne et les flûtes. Pardon.
Ouais.
Ah, alors il est où?
Ouais, il est où?
Oh bah flûte alors.
Il y en a. Champagne.
Il y en a.
Bon bah tant pis.
Champagne.
Non. Non. Si quelqu'un a du champagne, vous pouvez nous l'envoyer par mail. Donc on le réceptionnera avec plaisir.
Mais il y en a.
Ouais. Donc et aussi pour ces 2 ans, il y a eu une nouveauté, une surprise magnifique. À partir de maintenant, il y aura une chanson chantée, composée, tout ça par nous. Alors pour la première, c'est une chanson qui a été l'auteur, c'est Numa. Faut assumer.
J'assume.
Le compositeur, faut assumer aussi, c'est moi. C'est... Et le chanteur, c'est encore plus dur à assumer, c'est encore moi.
Oui, ça tu peux avoir du mal.
Et...
Hein.
On fait avec ce qu'on a. Hein.
Suis peut-être pire.
Je sais pas.
Je le suis peut-être en tout cas.
On va laisser donc les gens en juger et. Voilà,
fais péter.
C'est parti.
Un matin de semaine, d'un tonneau rebondit sur le sol d'un chai. Il naquit un meuret. Ce doux jour de semaine,
une barrique surgit, et bien qui aimerait, et voilà demeurer. Quand les demeurés sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, ils n'avaient de se mouvoir pour y boire. À chaque anniversaire de l'un des demeurés, l'autre des demeurés offre une boîte à meurer, des oranges et puis bleus, et quand la boîte fait meuf, tout le monde est heureux au village des meurés. Quand les demeurés sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, ils n'avaient de se mouvoir pour y boire. Quand en brinque ils partaient, buvant blanc après blanc, ils en buvaient tellement, finissant au beurre blanc.
Et demeurer au beurre blanc dans la sette.
Puisque les demeuraient toujours gais, quand en brinque ils partaient. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, ils n'avaient de se mouvoir pour y boire. Un jour sans avoir bu, se rendre au PMU, bêtement il mourut.
Oh.
Et puis l'autre meurait, qui n'avait pas plus bu, puis meurait tout mouru, à son tour il périt.
Oh.
Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire.
Voilà.
On devrait peut-être les prévenir, eh bien, faut
bravo.
Pas écouter trop. Ça colle au cerveau comme
oui,
chanson.
Il faut pas trop écouter parce que sinon ça risque de devenir le tube de l'hiver.
Puis,
je sais pas ce que on se retrouve devant une assistance comment dire médusée.
Oui,
ça manque de grâce. Tu m'as coupé, normalement c'était plus long. Hein.
Non mais il faut prévenir les gens quand même parce que ça réveille à 6h du matin quand même, et se le réveiller à 6h du matin avec ça dans la tête, ça fait peur.
En tout cas, s'il faut un clip, c'est tout trouvé, hein. Fallait voir nos tronches quand on a écouté, hein. Avec les casques en plus, c'est formidable.
On a été gentils, vous a fait écouter avant déjà pour être moins surpris.
Merci. Ça y est, je la connais maintenant.
Et pourquoi tu m'as enlevé plein de couplets?
Bah parce que après ça aurait fait trop long et je
ça passe pas à la radio. Voilà. C'est trop long. Ah papa.
Oui, j'ai enlevé
marketing
à peu près 60% des couplets. Mais on fera une version longue.
Ouais, bah oui.
La phase B.
Rassurez-vous.
Ça serait dommage quand même. Donc voilà, et ben vous aurez droit à ça ou un équivalent à chaque émission. Et oui.
Il va falloir maintenant tu m'emmerdes, il va falloir que j'en fasse une à chaque fois.
Oui, bah enfin bon, t'as déjà commencé, hein, tu vas plus vite que moi. Mais par contre,
oui, monsieur, un rapide.
J'espère que les autres viendront chanter un petit peu de temps en temps. Hein.
Oula.
Hein, Béa. Oula.
Avec plaisir.
Hein. Ben, on verra bien.
Un cré.
Bah oui, pourquoi pas. De ma belle voix. Vibrante.
Donc voilà. Bah nous, je sais pas si vous aimez, mais nous, là, on n'aime plus, hein, parce que la force.
J'espère qu'ils nous le diront.
Ouais, il faut dire. Donc aussi, on a quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est pour illustrer le thème de l'émission. Donc là, c'était aussi censé illustrer le thème de l'émission dernière, qui était la nudité. Je pense que on en est quand même pas loin.
Je pense qu'à chaque chanson, on devrait réussir à illustrer le thème de l'émission
de la 21e, il ne faudra pas oublier. Et ça parlait aussi un petit peu de bistrot.
Ouais, quand même.
Si près du bar.
Voilà, quelle transition, quelle transition, quel talent. Voilà.
Donc voilà, et bien sur ce, nous allons passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on va commencer. Eh bien Béa, télé, bistrot, on t'écoute.
Oui, télé, bistrot, effectivement un thème intéressant. Bar, télé, ça regroupe quand même deux de mes passe-temps favoris. Par contre, à travers le petit écran, ce sont quand même deux choses assez incompatibles, en tout cas à notre époque. Je veux dire que de nos jours, il n'y a pas de représentation du bistrot à la télé. J'en ai pas vraiment trouvé. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Dans mon souvenir en tout cas, dans les années 70, le café, le bistrot, était quand même un décor très prisé pour certaines émissions du genre talk show ou débat. Et je pense évidemment aux émissions de Michel Pollack, ou même celles de Bouvard, je ne sais plus les titres, hein, il en a fait tellement. Où en plus les invités buvaient et fumaient à l'antenne, chose impensable aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs assez drôle de regarder l'évolution qu'il y a eu dans l'interdit. Parce que dans les années 60-70, faire une émission dans un décor de bistrot où tout le monde effectivement boit et fume, parce que c'est normal, ils sont dans un bistrot, ne dérange pas vraiment. Et ce qui choquait ou dérangeait, ce qui pouvait même être censuré, c'était pas ça, c'était plutôt les propos tenus par les invités et surtout leur langage. Parce que par exemple...
On pouvait pas leur en vouloir, ils avaient bu.
Ouais, mais même s'ils avaient bu, s'ils sortaient bite nichon couille, à l'époque, ils se faisaient virer de l'antenne illico presto, quoi. Alors que plus tard, fin des années 80 et années 90, tout devient permis de dire à la télé, notamment bite nichon couille. Et c'est vrai que par exemple Canal+, y a été pour beaucoup dans cette évolution, enfin si on peut appeler ça une évolution.
Vive la révolution culturelle apportée par Canal+.
Bah, ils ont apporté une certaine liberté de ton et notamment dans le langage. Par contre, un peu plus tard, la loi Évin et Dan, il devenait quand même incorrect de montrer quelqu'un qui fume ou qui boit. Mais par contre, ça n'empêchait pas qu'il pouvait dire des horreurs ou des gros mots ou enfin oui un mauvais langage. Alors que maintenant, dans les années 2000. Les principes ont changé et sont encore plus hypocrites que jamais. C'est-à-dire que les gens à l'antenne sont tenus d'avoir une présentation physique impeccable, c'est-à-dire une tenue correcte, les dents blanches, ils doivent évidemment soigner leur langage. Donc pas de gros mots. Ils doivent surtout faire attention à tout ce qu'ils disent.
Et t'as la loi tout bon aussi.
Ah, tout bon!
Ah, mais oui, t'as la loi Évin, t'as la loi tout bon!
C'est pas passé
quoi,
ça!
C'était pas trop d'anglicisme et de trucs comme ça, c'était voire même pas du tout d'anglicisme. Ouais.
On dit pas le retour du Jedi, on dit le retour du jeudi.
Ouais, mais ça, à la télé, je suis pas persuadée que ça ait beaucoup marché parce que.
Ça a fait rire du monde.
C'est vrai, j'ai oublié. Mais il nous a fait beaucoup rire, effectivement.
Mais il a la tête pour.
Déjà. Mais c'est vrai, on sait pas ce qu'il est devenu, lui.
Non. Il est maire de chez lui, il est député, il est sénateur,
on en est bien triste.
Ah bah oui.
Donc Jacques, si tu nous écoutes, fais-nous signe.
Oui.
Jacques, on t'aime.
Petit signe alors. Hein. Où est-ce que j'en étais ?
Il est pas grand.
Oui, donc dans les années 2000, je reprends.
Vas-y, reprends.
Maintenant, à la télé, c'est vachement plus hypocrite parce qu'effectivement, les présentateurs sont tout beaux, tout propres sur eux. On leur demande effectivement de soigner leur langage, mais surtout de faire attention à ce qu'ils disent et notamment à faire attention aux mauvaises blagues. Par exemple, sur les juifs, les noirs, les arabes, surtout pas, sinon t'es raciste. Sur les homos, les femmes, surtout pas, sinon t'es sexiste.
Mais il nous reste les blondes.
Ah bah non, t'es sexiste aussi.
Merde. Il nous reste quoi?
Les animaux, les nains, les handicapés, etc. Surtout pas, sinon t'es insensible, et voire plus.
De l'autodérision, il reste.
Les pauvres, les SDF, les cons, tu peux pas, sinon t'es de droite, etc., etc. Donc il reste pas grand-chose.
Et on s'emmerde pas, là?
Bah un peu. Sauf que quand même, là où c'est vachement plus hypocrite, c'est que malgré ce côté propre sur eux, que ce soit sur leur physique, où ils sont quand même bien choisis, genre Ken et Barbie...
On sait pas ce qu'ils sniffent en coulisses.
Et
de la vitamine C.
De la vitamine C.
Mais ça change rien, puisque de toute façon, ce n'est plus eux qui décident de ce qu'ils vont dire. Ils sont très surveillés, donc à ce niveau-là. Mais par contre... ça leur empêche pas d'avoir des programmes et des thèmes dégueulasses, immondes, bien plus choquants que de dire bit nichon couille. J'aime bien les trois mots.
Bit nichon couille, c'est vrai, c'est agréable à dire.
Non, pour ceux qui connaissent un sketch de Pierre Palmade, ils savent pourquoi. Et notamment, oui, bon, les émissions à la con, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, et notamment celle de Bataille et Fontaine. Wow. On adore. Donc il n'y a que la vérité qui compte. Où dernièrement, ils ont invité une nana pour tenter de la rabibocher, puisque c'est le but du jeu, avec son ex. Or,
ça a échoué.
Or, non, pour faire venir la nana qui avait d'abord refusé, parce qu'elle s'était bien doutée que c'était pour voir son ex, ils lui ont menti. Ils ont dit non, c'est pas pour ça, vous pouvez venir. Et en fait, elle s'est retrouvée face à son ex. Et si elle ne voulait pas le revoir, c'est qu'il y avait une bonne raison, c'est quand même qu'il lui a tapé dessus et qu'il l'a violée.
Mais ça fait deux bonnes raisons. Raison.
Les deux autres, Bataille et Fontaine, qui ne sont pas que présentateurs, mais producteurs de leur émission, ne se sont pas gênés
ils l'ont
pour
violée
faire.
Aussi.
Non, mais je sais pas, c'est suffisamment immonde comme principe de mentir en plus. Mais ils ont fait 33% de part du marché.
Ça, c'est important. Mais,
j'ai réussi à en regarder 5 minutes l'autre jour et c'est assez terrifiant.
C'est terrifiant, oui. Ouais.
Mais justement, pour les gens qui viennent dans ces émissions, j'avais entendu une émission à la radio sur Europe 1, celle de Jean-Marc Morandini tous les matins, là, qui parle de la télé, qui a fait beaucoup de progrès depuis qu'il était à la télé, d'ailleurs.
Ouais. Facile.
Et justement, on lui demandait comment ça. Enfin, dans l'émission, les gens demandaient comment ça se fait que les gens viennent. Parce qu'on connaît l'émission, tout ça, et en fait, il disait la majorité des gens viennent même s'ils ont peur, parce que c'est normal, en général, c'est fait pour faire de l'audience, c'est pas pour faire plaisir aux gens qui viennent, c'est par curiosité. Il y a plein de gens qui viennent par curiosité. La majorité, ils disent même s'ils ont peur de quelque chose.
Forte.
Et si en plus, ils mentent un petit peu, ils ont plein de gens qui viennent et qui sont très malheureux d'être venus au bout du compte.
Enfin là, quand même, visiblement, la fille voulait vraiment pas et de lui avoir menti comme ça ouvertement, je trouve ça immonde. Quant à Morandini, il est vachement bien placé pour faire la leçon parce que son émission, il y a 10 ans, Tout est possible, était une des premières émissions de télé-poubelle. Et je trouve qu'il n'y a que la vérité qui compte, le remplace bien largement.
Oui, mais à sa décharge, il ne fait pas la leçon. Il regarde un petit peu, il fait une émission sur la télé, il y a plein de monde, c'est pas... Enfin,
mais je trouve un petit peu facile... Pourtant, il a un discours assez intelligent.
Il faut bien qu'il
mange,
ce garçon aussi, c'est tout ce qu'il sait faire.
Je trouve un petit peu facile d'être arrivé... C'est vrai qu'il était jeune quand il est arrivé il y a 10 ans et qu'il a fait tout est possible. Il avait quoi, 22, 23 ans? Mais il l'a quand même fait pendant je sais pas combien de temps ça a duré. Il en était quand même le présentateur, même s'il n'était pas le rédacteur en chef. Qu'il n'aille pas dire, comme c'est la mode de dire maintenant, je savais pas.
Non, il ne le dit pas.
On savait pas.
Franchement, il ne le dit pas.
Si, il l'a dit. Moi, je l'ai vu dans plusieurs émissions.
Oui, mais maintenant, il ne le dit plus.
Dit.
Parce que justement, au contraire, dans ses émissions, quand il parle de ce type d'émission, il prend son expérience pour dire oui, effectivement, parce qu'il connaît bien le système, forcément, il y a
et
participé.
Et justement, il s'en sert à nouveau du système. Il revient en écrivant un bouquin sur la télé
Oui, c'est vrai. Enfin, ça fait un moment déjà qu'il écrit ce bouquin.
Ouais, mais je trouve ça un peu facile.
Bouffer. Mais faut bien bouffer. Donc, qu'est-ce qu'il sait faire, lui, comme ce jeune homme, comme métier?
Rien.
Il avait qu'à apprendre.
Voilà. Il fait rien d'autre, donc, il fait avec ce qu'il sait faire.
Parce que s'il savait faire quelque chose, il travaillerait, il viendrait faire des chroniques dans Quoique.
Ouais, voilà. Mais de là à faire de la merde quand même.
Bah t'en fais pas toi.
T'en fais pas.
Ouais, mais nous c'est de la merde bénévole, c'est pas pareil.
Organique.
Voilà, de la merde bio.
Je parlais
bio.
Pas de ça, alors, enfin. Bon, reprenons le cours.
Oui, reprenons.
Enfin, en tout cas, si ce genre d'émission m'insupporte, eh ben, j'éteins la télé et je vais au bistrot.
Ah.
Et le bistrot est également un grand spectacle qui fait beaucoup de parts de marché quand même.
Et dans les bistrots, t'as des télés maintenant des fois.
Certes.
Ben, laisse-la faire sa chronique.
Non, oui, effectivement, il y a dans certains bistrots, il y a la télé et
il y a du foot.
Et j'aime pas. Ça me dérange parce que du coup, foot, quand la télé est en face. De c'est toi, bien. Bah tu fixes la télé.
Ou alors t'es en train de parler avec quelqu'un.
Voilà, et c'est agaçant.
Toi t'es dos à la télé, l'autre est face à la télé, et t'as l'impression que ce que tu racontes c'est pas intéressant.
Mais
enfin, tu te rends compte
parce
que
on est
c'est
toujours
pas intéressant.
Hypnotisé par l'image, même si on n'a pas le son, même si on entend très bien ce que
encore,
dit
en fait.
L'interlocuteur. C'est vrai que c'est très dérangeant. J'aime pas les télés, les bars dans les télés.
Oui,
sauf effectivement quand il y a des rentrées.
Les bars dans les télés, non, les télés dans les bars.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Les bars dans les télés.
Ouais, je suis fatiguée. Hein.
Mais moi, j'aime bien quand je vais voir des matchs de rugby
voilà.
Dans les bars.
Là, par contre, c'est vrai que c'est un autre contexte parce qu'il y a une ambiance. Ça permet de voir ensemble, presque comme si on était au stade, quoi. Sauf qu'on est bien au chaud, le terrain est plus près.
Les bières sont moins loin.
Pareil, les bières sont pas loin. Hein.
Tu légitimes ta murge avec le match de rugby, en fait.
Oui.
Comme s'ils avaient
on n'a pas le droit d'en parler. À cause de la loi E20, c'est pour ça que nous on fait de la radio, en fait on peut fumer, boire, tout ça, personne ne voit rien. Mais ça ne sent pas du tout.
Ah non, ça ne s'entend pas.
Enfin, remarque, maintenant à la télé, c'est vrai que il faut surtout pas montrer les invités, surtout pas montrer sur le plateau qu'ils peuvent boire ou fumer, mais n'empêche qu'il doit y avoir vachement de fumeurs dans les gens du showbiz. Est-ce que c'est club sur club? Moi j'ai déjà assisté à des émissions. Donc,
on a
sur les
bien
plateaux,
des...
c'est ahurissant.
Mais
à la moindre pause, ils sont tous en train de cloper comme des pompiers.
Mais là, on a des exemplaires qui connaissent bien les coulisses. Est-ce qu'on peut boire dans les coulisses, si je ne m'abuse, devant nous?
Non, pas du tout. Oui, alors.
Devant nous. J'allais dire, oui, donc ça les empêche pas de le faire, mais il faut pas le montrer. Par contre, quelquefois, on en aperçoit quand même les effets, effectivement, dans l'émission. Et un exemple assez récent dont tout le monde en parle, je pense que l'émission est enregistrée le mercredi ou le jeudi soir, je suis pas sûre, et ça doit être assez long, et ils ont des verres d'eau, on sait pas ce qu'il y a dedans. Normalement c'est de l'eau,
ça serait une faute de goût,
mais il y a pas longtemps
chose.
Pour Patrice Carmoz, il devait pas y avoir que de l'eau.
C'est l'avantage de
total
la
bourré
la
pour
vodka,
le pour le blind test à la fin, ça c'est clair et net.
Le blind test, il était bourré, le blind test.
Mais c'est l'avantage de la poire et de la vodka.
Oui.
Et puis de plein d'autres choses.
Oui,
il y en a plein de trucs. Hein.
Ouais.
Mais c'est bien ce que je disais, les années 2000, c'est ça, c'est extrêmement hypocrite.
Et puis de temps en temps aussi, ils invitent Michael Kull pour foutre le bordel et parler de bites, de cul, de nichon. Se foutre à poil sur le plateau. De...
Ah bah ça, c'est très prisé.
Il est invité pour ça.
Voilà, il y a certaines personnes.
C'est Young.
Voilà, Michael Young.
J'avais rectifié.
Michael Young, Jamel, des gens comme ça. Les gens comme ça sont invités effectivement pour foutre un peu le brin parce que beaucoup de gens qui soient à la télé ou devant leur télé ont la nostalgie d'une certaine époque où il y avait beaucoup plus d'émissions en direct et où ça dérapait. Parce que effectivement, maintenant c'est beaucoup plus consensuel et on enregistre parce
et
que
dans la case.
Les patrons, les présidents des chaînes ne veulent pas de dérapage, sauf si c'est bien tourné,
si
que
c'est
contrôlé.
D'un autre côté, ils ont des procès plein. Dès qu'il y a un dérapage, il y a procès sur procès.
Mais c'est vrai, voilà, on peut plus rien dire, on peut plus déconner.
Mais
c'est pas drôle.
Non, mais il y a plein de choses comme ça. Moi, ce que j'avais lu, c'est par exemple, on invite Fabrice Lucchini pour qu'il fasse du Lucchini. Donc, s'il vient pour faire autre chose ou pour, ben non, c'est parce qu'on lui demande, donc il a intérêt à faire. Mais après, beaucoup plus complexe, on invite, par exemple, il y a ce qu'on appelle les spécialistes. Là, je glisse un petit peu par rapport au sujet, mais c'est par exemple sur la Russie, c'est machin. C'est donc hop, il y a un fait d'actualité sur la Russie. Ah, hop, on invite machin. Et donc, ben, tu
on
vois.
On a toujours qu'un son de cloche.
Voilà.
Oui,
et, donc, et donc, enfin, parce que c'est le spécialiste du truc. Donc, si on est pris au dépourvu, c'est ce type-là qu'il faut aller chercher. Donc.
C'est vrai que je regarde plus trop d'émissions de débat parce que j'ai l'impression d'entendre toujours la même chose.
J'avais lu ça dans Le Monde parce que bon, comme j'ai pas la télé, mais j'aime bien en parler. Parce
ouais,
que,
mais voilà, on le constate de toute façon. Très facilement, c'est toujours les mêmes qui sont invités. C'est toujours les oui.
Et en fait, quand je t'entends parler, ça me donne pas du tout envie de regarder. En fait, comme ça, c'est fait.
Bah donc, on va aller au bistrot.
Ouais, cool.
Non, mais faut finir l'émission d'abord.
Puisque donc le bistrot est un spectacle et donc mieux que la télé-réalité, puisque là, c'est vraiment la réalité. Puisque le bistrot est un lieu unique qui rassemble des gens de tout âge, tout milieu, toute profession, enfin tout le monde, quoi. Et c'est surtout vrai en province, je trouve, puisque je viens quand même de province, ou au café de la mairie, ou
c'est
café
où,
du
province,
coin,
hein.
ou café de la poste, si, ou café des sports, ou pas très original non plus, au Chiquito, à l'Oasis, au Balto, au Brazza, ou des bistrots un peu plus personnels, dans les petits bleds surtout, chez Germaine, chez Thérèse, ou alors elles sont peut-être déjà mortes.
Chez Lorraine.
Ah, non, et nous à Bourgueil, voilà. On a le Mickey Bar.
C'était bien, c'était chouette.
Hein, nous on a le Mickey Bar. À Bourgueil, le Mickey
oui, c'est
Bar.
Bien, mais on va pas tous les citer.
Ah
là,
non,
je vais citer surtout les noms
Bar.
Qu'on retrouve systématiquement.
Non,
ah non, mais Mickey Bar avec un nom comme ça mérite d'être cité. Hein.
Le Balto et le Brazza, ça, c'est.
Ah bah, non, partout.
La Palme.
T'en as un partout.
Des cafés de la mairie.
Des Arles, l'Olympique.
Café, voilà.
café
du port, s'il y a un port.
Ah,
café de la gare, si t'as une gare.
Café de la gare, oui, c'est pareil que la poste, machin. Et tout ça dépend ce qu'il y a à côté. Mais quelquefois, il y a des cafés de la gare alors qu'il n'y a pas de gare. C'est parce qu'il y en avait une avant.
Il y en avait une avant.
Oui, moi j'en ai plein comme ça.
À Saint-Georges-de-Retz, c'est dans les
cafés des sports.
Une.
Bon.
Mais je l'ai dit. Mais tu vois, il m'écoute pas.
Si.
Il répète tout ce que je dis.
Alors,
non,
vous êtes tous
non,
en train d'empiéter
c'est
sur la chronique
blanc,
de Béa avec vos souvenirs personnels passionnants, soit dit en passant. Ah. Mais quand même.
Heureusement qu'elle n'était pas longue. Donc dans tous ces cafés là, aux noms divers et variés, on croise donc toutes sortes de gens. Alors, par exemple, les ouvriers qui commencent tôt le matin, qui viennent prendre un petit café, enfin le matin, et certainement
un demi
le soir.
C'est pas toujours un café le matin.
Oui, hein.
Soyons sympas avec les ouvriers, faut pas faire une généralité.
Après,
ils ont mauvaise réputation.
Il y avait pas que des ouvriers.
Moi je parlais des ouvriers.
Moi j'y allais prendre mon café et il y avait des gens et ils prenaient des demi, ils prenaient des blancs, ils prenaient des rouges et
ils prenaient
7h30.
Des calvas.
Voilà.
Ça c'est quand on n'est pas couché.
Et quand on est étudiant.
Alors sinon, il y a le vieux garçon célibataire aussi qui vient boire un coup tous les jours assis au bar à la même place pour discuter avec la patronne. Faut tuer le temps.
Voilà, avant d'aller se taper une queue devant le film porno qu'il a enregistré.
Par exemple. Sinon, il y a le pilier de comptoir, forcément l'incontournable, hein, que tout le monde connaît et que tout le monde finit par fuir parce qu'il pue la vinasse et la gitane. Donc il finit par parler tout seul, hein, ça doit être pour ça. C'est les gens qui parlent tout seuls, qui font bruit de fond, hein, tout le monde en connaît, il y en a partout. Sinon, il y a la bande de jeunes qui vient faire un flipper ou un baby après le lycée. Puis sinon, il y a la concierge d'en face qui, après avoir sorti les poubelles, vient boire un petit blanc. Vous êtes content, là, il y a le petit blanc, là. Donc, elle a que 40 ans, mais sur son visage, elle en fait 15 ans de plus. Ça marque, le petit blanc, hein, faut faire gaffe quand même. Hein. Ou alors, il y a la jeune petite famille aussi qui vient que le dimanche après-midi, après le repas chez la belle-mère. Qui viennent se détendre, les gamins des grenadines, et essayent de jouer au baby, mais ils dépassent pas le truc. Et puis ça tourne assez mal quand le monsieur a trop bu et qu'il devient con, bruyant et agressif. Enfin voilà, quelques exemples de clients.
Mais c'est pas
forcé. Non, mais j'en ai vu.
Oui, aussi,
c'est quelques exemples de clients qu'effectivement, il y a des récurrents qu'on retrouve partout. Dans tous les bistrots, mais...
Et t'as aussi les deux coins à côté de la caisse qui se foutent de la gueule des autres clients.
Oui, il dit ça pour lui.
On dirait.
Enfin, en tout cas, c'est vrai que le bistrot a eu et a sans doute toujours une... une valeur sociale. C'est effectivement un lieu... où tout le monde peut se réunir et donc je propose aux chaînes de faire une télé-réalité dans les bistrots.
Ah ouais.
Ouais.
On sera présent.
Bravo.
Ou alors un loft dans le bistrot.
Ouais. Oh bah dis donc, t'as compris ce qu'elle vient de dire.
Voilà, une télé-réalité quoi. Mais qu'elle est chiante. Voilà, j'ai fini.
Eh bah écoute, je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Béa et sa chronique. Viens maintenant. Oula, j'ai dérapé un peu là au niveau de la voix. C'est pas grave, personne n'a rien entendu, j'ai rien dit, donc tout va bien.
Non.
Et bien maintenant, nous allons passer à Flo qui apparemment a beaucoup envie de parler. Donc, vas-y, gaffe-toi.
Je me suis vachement retenu. Hein. Oui, alors je vais vous parler d'un gros bouquin que j'ai découvert comme ça par hasard dans un UGC, parce que des fois il nous arrive d'aller à l'UGC. Et puis UGC, ils ont une espèce de torchon qu'on récupère comme ça à chaque fois, puis on jette un œil, puis à chaque fois on dit mais c'est vraiment trop naze comme truc, pourquoi est-ce qu'on a pris ça? Enfin bon, on s'en fout, c'est gratuit donc bon. Et en tournant les pages, on est arrivé.
Pourquoi on va à l'UGC?
Parce que il faut reconnaître.
Ils ont un truc bien.
Il y a quand même quelques UGC qui sont assez récents avec de très bonnes salles. Et pour certains films, quand même, avoir une bonne grosse salle, c'est pas mal. Et donc là, on était allé faire un tour. Enfin bref, on jette un œil dans le journal. Et UGC essaie de copier, enfin de faire une grosse concurrence au cinéma d'art et essai. Et qui dit concurrence au cinéma d'art et essai dit s'intéresser aux films d'art et essai et à tout ce qui va avec la culture du cinéma. Et on a trouvé, il y avait tout un article sur un gros bouquin qui s'appelait Le Dictionnaire du cinéma populaire français. Et on a jeté un œil sur l'article. Et bon, vous avez l'air de dire que c'était pas grandiose, quoi. C'était un peu chiant. Enfin bon, ça pesait facilement 3,5 kg. Enfin, c'était lourd. C'était pas trop cher, mais bon, quoi. Voilà. C'était moyen. Et alors, leur critique générale, quand même, très, très, très grosse critique et très fondée, c'est qu'il y avait un petit peu trop de logos France Inter et Ciné-Cinéma partout. On a trouvé quand même que comme critique d'un bouquin, c'était quand même assez gonflé.
Bah, ça en dit long sur le contenu.
Ah, ça en dit très très long sur le contenu. Alors on s'est dit que peut-être que c'était Ciné-Cinéma et France Inter, et que France Inter, c'était peut-être pas nécessairement de grands copains du GC.
Il parlait aussi de la couverture qui était un petit peu trop touffue, donc est fait par Tardy, et c'est touffu.
Voilà, alors moi je trouve que finalement, couverture de Tardy pour un dictionnaire du cinéma populaire français, et sur laquelle il représente quelques grands acteurs et grands personnages du cinéma populaire français. En fait, c'est assez logique, en fait.
Ouais, mais les dessins sont mal faits. Moi, j'ai pas reconnu tout le monde.
Bon, tu rigoles.
Mais si, on les reconnaît vachement bien.
Là, je le vois très mal et pourtant, je reconnais.
Et pourtant, et je suis désolée, la bête de La Belle et la Bête, on peut pas le rater.
Oui,
on
c'est vrai,
c'est Jean-Marais.
Autrement, ils ont tous un peu la même tronche.
Bah oui.
Aussi, on le reconnaît assez bien.
On va faire manger dans François Ier.
Voilà. Et regarde le petit Jean Mineur, on peut pas le rater. Regarde, il y a Belmondo ici.
Il y a même Jean Mineur qui s'est fait rafter.
Ouais, il y a Coluche. Mais si, regarde.
Ah ouais, ouais.
Mais c'est parce
je sais pas, je trouve qu'ils ont tous un peu la même tronche.
T'étais traviole, c'est pour ça. Attends, tu
peux pas. Mais comme tu veux, d'accord.
Mais on va pas faire trop longtemps sur la couverture.
Non, on va pas décrire parce que
c'est pas très.
Page par page,
c'est pas très radiophonique.
Donc ils ont tous la même tronche, mais on les reconnaît quand même.
Voilà, on connaît moins, donc on trouvait que c'était un petit peu pas très fondé comme critique. Et il se trouve que pas loin de l'UGC où nous étions se trouve une librairie qui fait pas mal de BD et s'intéresse un peu au cinéma. Et donc on s'est dit tiens, bon, on va aller jeter un œil, parce que bon, il y avait quand même à noter que le bouquin était annoncé comme pas trop cher quand même, ce qui vu la taille du bouquin est quand même est un avantage sérieux, quoi.
Alors combien?
C'est combien?
Une cinquantaine d'euros.
55
euros.
Ouais, ça va, c'est pas cher la page.
Ah non, au poids c'est pas cher.
Non, au poids et.
Au poids c'est pas cher. Si c'est.
Et
si
la qualité
c'était,
des articles, c'est pas cher.
Si c'était payé, si c'était avoir 6 petits logos France Inter, Ciné-Cinéma, sur chaque
c'est
couverture.
Pas cher parce que c'est subventionné.
Voilà.
Qu'est-ce qui se plaignait de ça déjà, tu nous
UGC.
Disais voilà, bon, UGC, vous êtes chiant, vous n'allez pas nous casser les couilles pour des logos sur une couverture.
Bah ouais, parce que.
Et voilà,
ils sont
méchants.
Voilà.
C'est méchant, un reine UGC.
Ouais.
Moi je les ai vus parce qu'il m'avait dit dans l'article qu'il y en avait 6.
Non, alors, j'ai pas fait attention.
Alors je les ai cherchés. Donc je les ai trouvés.
Ouais, voilà, tu sais, c'est comme dans les bouquins quand on te dit un petit canard est caché dans la page, cherche-le. Bah, c'est pareil.
Tu cherches,
ah d'accord.
Voilà. Alors là, et bon, du coup, on est allé jeter un œil quand même. Là, on l'a trouvé effectivement dans la librairie. Et alors là, on a pris le bouquin. Et alors là, je tombe sur écrit tout en haut, préface Jean-Jacques Bernard. Ah, j'ai dit merde, Jean-Jacques Bernard, ça me dit quelque chose. Effectivement, quand même, il est. C'est Première, le magazine cinéma. Enfin, bref, ciné classique. Il est critique sur Masque et la Plume, là, sur France Inter. Enfin, bref, je me dis merde, c'est quand même pas une buse. Il y avait le truc a été fait sous la direction de Christian-Marc Bosseno et de Yannick Dehaye, dont je ne sais plus exactement ce qu'ils font, j'ai pas retrouvé, mais bon, qui sont des noms qui ne me sont pas inconnus. Donc on s'est dit que bon, ça, en allant plus loin, ça devait vraiment pas être
la référence. Si elle connaît les noms, c'est que ça va. Hein.
Mais non, mais c'est, ce sont des noms qu'on
c'est
entend.
C'est marqué hein, dans ce qu'ils font.
Ah bon, d'accord, j'ai pas. Je suis...
Tu l'as pas lu,
pas lu. C'est le seul endroit où j'ai pas cherché, pensé à regarder. Et pourtant, j'ai fait des recherches partout. Hein.
Première page.
Mais voilà, bah, j'ai fait des recherches partout sur la planète.
L'abuse. Hein.
Mais bon, d'un autre côté, ces types ne sont pas complètement des buses. Donc voilà, poupoup.
Non, la buse, c'est toi.
Oui, c'est moi la buse. Mais si j'étais pas une buse, je ne ferais pas de chronique sur quoi que je ferais des chroniques sur des radios qui me paieraient.
Mais parle pour toi.
Non, mais j'ai pas dit sur des radios de merde, des trucs de merde. J'ai dit sur une radio qui me paierait pour faire des chroniques.
Oui, bon, je préfère.
Oui.
Bah, déjà, on te supporte.
Ah, mais alors, c'est déjà pas mal. Comment vous feriez une critique?
Il y a aussi
cinéma.
Des chaînes qui payent des buses.
Oui, c'est vrai. Tiens, oui, mais j'ai pas les fesses pour, ni les seins.
Ta 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 da da.
Ouais, absolument. Voilà, alors donc on a jeté un œil dedans et en fait il se trouve que c'est un ouvrage très très complet sur le cinéma. Craig il l'a, va pouvoir confirmer. Alors,
moi je confirme rien du tout, je ne l'ai pas lu en entier.
Non, mais bon, dedans on trouve les quelques grands films français qui ont marqué donc, le cinéma, comme le fabuleux.
Quelques moi, tous les films sur lesquels je me pose une question, j'ai trouvé.
Oui, bah oui, mais c'est pas tout le cinéma français ce que
mais
je
non,
veux dire.
Non, non, c'est le cinéma populaire
et c'est ce qui a vraiment marqué. Donc,
si on vous embête, on peut aller au bistrot hein, tous les deux là, parce que c'est un peu flou là votre discussion.
Bon, c'est synchronique.
Je donne des exemples, monsieur. Alors, vous pouvez trouver des films genre, je sais pas, par exemple, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Judex, Le Grand Bleu, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Oui, c'est ça.
Et c'est... Ça a marqué le cinéma français, ah, ça, Le Grand Blond avec une chaussure noire.
Moi,
ça m'a marqué,
populaire.
Moi, personnellement.
Mais non, voilà, mais c'est le cinéma populaire. Tu vas trouver
c'est
La Grande Vadrouille dedans.
C'est le film qui a fait le plus d'entrées en France.
Voilà,
non, mais et en même temps tu trouves des films plus complexes et des auteurs par exemple on en avait parlé je sais plus quand
tu ne manges pas le reste de ma chronique, je vais descendre le reste du truc pour l'instant, on en est au film.
Vas-y, lance-toi.
Voilà, bon,
on dit plus rien.
Je dis plus rien, donc je parlerai pas.
Il y a la boum.
Oui, il y a la boum. Oui. Mais oui. En fait, si tu veux, ce qui est bien, c'est contrairement à un dictionnaire du cinéma en général, la boum, tu vas trouver quoi? Allez, si t'as de la chance, 10 cm d'articles, et puis basta. 7.
Elle a peut-être pas même la notion de centimètres.
Le public fait des remarques sur la longueur des centimètres.
Voilà. Non, mais enfin bon,
c'est Ariane d'ailleurs, on a oublié de parler d'Ariane qui nous fera encore une critique à la fin.
On va y trouver de tout.
Je lui ai pas appris à faire de créneaux.
On va y trouver des articles vraiment assez complets en fait sur le film, ce qu'il a apporté, etc., 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 etc. Alors il n'y a pas que les films, il y a aussi oui, j'ai noté aussi pour ceux qui s'inquiètent aussi des gendarmes parce que j'ai jeté un œil.
Les gendarmes dedans.
Non, il n'y a pas les gendarmes de Saint-Tropez, etc., etc. Mais ils sont regroupés sous le thème des gendarmes en général.
En général.
Voilà, alors comme ça.
Avec les gendarmes, les extraterrestres, voilà. Les gendarmettes, les meilleurs.
Et tous les films de gendarmes. Qui soient un peu populaires sont cités dedans. Enfin bref, ils ont regroupé le thème de gendarme.
Oui, mais Pinot un bleu flic, moi je l'ai trouvé à Junio Gérard.
Ouais, parce que c'est
pas gendarme. Mais c'est parce que
c'est classé
flic.
Comment alors
C'est mélangé.
C'est mélangé.
En fait,
t'as
les films. À chaque fois, t'as un petit astérix pour te dire, pour te resituer quand même. Des fois, tu seras un peu perdu. Bon, quand c'est un titre de film, ça va. Mais face à une personne, tu sais pas nécessairement si acteur, producteur, machin, etc. Donc tout ça, tout est repéré par des petites icônes. Et après, quand c'est vraiment des gros thèmes, c'est tout calé dans un gros thème, quoi. Je dis, comme les gendarmes, il y a tellement de films sur les gendarmes.
Ah, bah, sur les flics.
Voilà.
C'est un peu comme une encyclopédie, en fait.
Surtout dans les années 80, les films sur les flics.
Voilà. Alors, bon, bien sûr, donc on va trouver aussi des trucs sur les acteurs. Donc, les acteurs bah, populaires, par exemple, Galabru. Des réalisateurs aussi obscurs. Le bruit que j'ai fait, c'est en portant le pavé, en transmettant le pavé de l'autre bout de la table. Vous imaginez un peu le poids.
C'est le livre.
Le livre. Des réalisateurs, jusqu'aux réalisateurs obscurs comme Jean Rollin, qui vraiment pour pour les éclairer du cinéma populaire français.
Et moi, c'est la première chose que j'ai cherché dedans, c'est est-ce qu'on parle de Jean Rollin. Et on parle de Jean Rollin, donc je suis content.
Donc on s'est dit que ça ne pouvait être qu'un bon dictionnaire du cinéma populaire français. C'est un
plutôt que deux.
Quoi? Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Jean Rollin, il faut aller le voir, c'est quand même extraordinaire. Il a fait beaucoup de Dracula, La fiancée de Dracula, son dernier, est un chef-d'œuvre.
Il a pas sorti un truc dernièrement?
Oui, La fiancée de Dracula.
C'est dernièrement, ça. Ouais. Le film me dit rien, mais j'ai entendu parler de ce mec-là.
Il y a deux ans, c'est
quelqu'un de formidable. Ça fait des années, ça fait peut-être 40 ans qu'il fait des films. Il fait des bides à chaque fois. Jamais ses films marchent, mais il en fait tout le temps.
Ouais, il y en a d'autres. Bah,
qu'il continue.
Qu'il continue, mais il fait des trucs.
En fait, sa plus grande ressource, c'est trouver des producteurs.
Il se démerde, il en trouve pas,
il se débrouille tout seul.
On croisait un type qui disait qu'il faisait même tourner les copains à un moment.
Il a vraiment un univers hyper personnel. Ah, Mokhi est dedans aussi. Ça vaut le coup d'aller le voir.
Mais bon, Mokhi, on s'y attendait. Alors, on va retrouver aussi des scénaristes, écrivains, comme Fallet. Enfin, je vous donne les catégories. Hein. René Fallet.
Il n'a pas de prénom.
Le type qui a fait la soupe aux choux. Pour éclairer un peu les gens. À propos le livre. Les producteurs, comme Éclair, Gaumont, tout ce que vous voulez. On retrouve aussi, alors quand les acteurs sont trop nombreux, ils sont regroupés en famille. Enfin, acteurs ou personnages rattachés au cinéma sont regroupés en famille, comme la famille Trintignant avec Jean-Louis, Nadine et Marie. Hop, tout le monde dans la même page, au même endroit.
Et Bertrand aussi, non?
Oh, la mauvaise blague.
Non, il n'y est pas. On trouve aussi des aspects techniques concernant le cinéma, chose qu'on ne trouve pas nécessairement partout. Enfin, sur l'économie, la technique, la musique, les différents médias du cinéma, les revues, etc., etc., etc. Donc en fait, à l'arrivée, ça fait un ouvrage assez complet. Mes petits camarades sont en train de regarder le bouquin.
Non, c'est vrai que ça a l'air bien.
Ah non, c'est vraiment super.
Ouais, ça a vraiment l'air bien. Parole.
Ah, c'est vrai. Et alors dedans, on retrouve des thèmes aussi comme l'exception culturelle, les comiques troupiers et surtout des thèmes comme les lieux. Et dans les lieux, on trouve les bistrots. Numa, tu peux tourner la page à bistrot et tu nous racontes ce que tu vois, s'il te plaît.
Et pendant ce temps-là, tu nous laisses le grand blanc.
Voilà, bah écoute, le grand blanc avec.
Il y a le grand bleu d'ailleurs en parlant
venir
du.
Avant.
Ah si, j'ai dit. Oui, il y a le grand bleu. Il y a le grand bleu. Il est juste. Il est juste en face du grand blond avec la chaussure noire.
Bon.
Ouais. Ce dictionnaire n'a peur de rien.
Il joue pas dans le grand bleu, Pierre Richard.
Non, mais il est juste à côté.
Ah bon. Ah bah écoute, première.
Voilà.
Ça y est. Ça commence par la même lettre. Bleu et blanc.
Ah, et bistrot, c'est quoi? C'est un singe en hiver
Il faut que je raconte quoi sur les bistrots?
Je sais pas,
qu'est-ce que
la
tu
photo,
vois
là décris-nous un peu.
La photo, mais visiblement, c'est un singe en hiver.
Ça
y ressemble, non? Le crédit, il est en bas, c'est bien ça. Donc, oui. Henri Verneuil en 1962.
Voilà. Grand film sur les bistrots.
C'est une photo de Jean Gabin.
En fait,
je rappelle que un singe en hiver, c'est Antoine Blondin.
Le roman.
Et qu'il a eu, le film, c'est Henri Verneuil. Et qu'il a eu le prix Interallié en 1959.
Bon, voilà. En fait,
dans pas beaucoup écrit de romans, mais que des bons.
Et ben voilà, maintenant, mais c'est suffi, il suffit d'en faire un.
Bah voilà.
Parle-nous un peu plus tôt de l'article sur les bistrots. Enfin bon,
je l'ai pas lu avant. Donc moi,
tu le lis, on fait une interruption
momentanée
des programmes et puis on revient dans 5 minutes.
En France, si les histoires s'achèvent par des chansons, elles débutent souvent par des litrons. Pour des raisons de morale et d'impératifs techniques, le cinéma muet a fait l'impasse sur les débits de boissons, sauf dans les productions hygiénistes dédiées à ces lieux de perdition. En revanche, ils ont très souvent servi de salles obscures pour des populations avides de nouvelles images. La salle de bar devient donc, dès l'avènement du parlant, un des lieux d'élection du cinéma, servant d'exposition pour camper une histoire ou de halte pour reposer l'action.
Etc. Enfin bon, je crois qu'ils sont une soixantaine à avoir écrit des articles sur les thèmes, les personnages, etc. Enfin bref, quoi. Donc c'est un ouvrage, vous comprendrez, vous l'avez compris, assez complet, vachement intéressant. Et voilà.
Il parle même de Dupont-la-Joie.
Ah, très bon film, très gay et
écoute,
tout.
Écoute, le cinéma populaire français, Manu. Et alors je voulais vous parler là, juste avant qu'on me coupe, d'un film.
En deux mots,
d'accord. Qui m'a tenu vachement à cœur, qui m'a vachement plu, qui s'appelle Enchantant derrière les paravents. Qui est un film d'un Italien qui s'appelle Ermanno Olmi et que je ne connaissais pas du tout. Qu'avec Numa, on est sorti en se disant bon sang, si ce mec a fait un premier film, c'est vachement chier quand même, c'est super. Et en fait, on a vu la photo du type et c'est loin d'être un premier film. Hein, ou alors.
Il a vachement attendu avant d'en faire un film.
Ah oui. Et alors, c'est là qu'on a découvert qu'on
c'était
avait.
Dernière non, ça fait des années.
Ça fait des années.
Ça fait 50 ans, ils l'ont fait.
En fait, on s'est senti vraiment con. On s'est dit qu'on était vraiment les deux crétins du cinéma.
Ouais, parce que moi, je le savais, moi.
Oui, bien sûr.
Vous nous avez demandé.
Vous aussi, non.
Comment il s'appelle
Ermanno Olmi.
Oh, bah alors.
Alors.
Et tu fais une chronique sur le cinéma et tu connais pas Ermanno.
Absolument.
Non, mais c'est un type qui a eu un gros trou dans sa carrière.
Il a un gros trou dans sa carrière.
On veut pas savoir les problèmes privés, ça nous intéresse pas.
Il en a toujours un parce que là, en fait, on l'a trouvé. Il était distribué comme un premier film. Deux salles dans Paris. J'ose même pas imaginer combien de copies dans la France entière. Ceux qui veulent le voir, accrochez-vous. Mais si vous y arrivez, il faut vraiment se jeter dans la salle. C'est
ah, il y avait longtemps que tu nous avais pas parlé d'un film que personne peut regarder.
Attendez, il y a Bud Spencer dedans.
Il y a Bud Spencer avec Bud Spencer, ouais. Sans oui, Bud,
le copain de voilà,
ouais. voilà. Mais sans lui.
Non mais qui est quand
c'est
même.
C'est le gros, hein, c'est ça.
Oui, c'est le gros. Oui, non mais
on peut dire le gros mais à la radio. C'est on risque acteur. Pas d'avoir un procès. Il n'y a pas d'association d'obèses qui porte plainte quand on dit oh là là, il est gros celui-là.
Apparemment, on a le droit. Si on l'est soi-même gros.
Oh bah je suis gros moi.
Mais je suis gros.
J'en connais un qui. Tout cas,
je sais pas si je suis gros mais je suis lourd.
Pour être gros.
Guy Carlier.
Oui.
Ah lui il est
ah
gros.
Oui mais ça lui il peut se permettre de.
Ah lui il peut. Hein.
Je sais pas si si c'est s'il peut se permettre.
Bah, en tout cas il se permet.
Mais il joue beaucoup, il se moque beaucoup de lui-même donc.
Mais il est gros. Voilà.
Ah oui ça.
Ah là il est très gros.
Oui enfin bon pour en revenir à notre cher Armano Olmi.
Pour ta conclusion.
Donc son film, c'est un très, très 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 beau film qui se passe dans un bordel chinois. Alors c'est assez bizarre, c'est-à-dire il y a tout dans le bordel et avec des petites cabines où chacun se fait flotter à volonté. Pendant que un peu plus loin sur la scène se déroule un spectacle.
Et c'est un bordel avec une scène de théâtre.
Voilà. Et Bud Spencer présente une pièce. Alors
un
c'est
chou quoi.
Bah,
oui, mais c'est une vraie pièce.
C'est une vraie pièce qui est jouée.
Ça n'a rien de terriblement érotique sur la scène.
Et Bud Spencer, faut quand même le dire, c'est quand même un vrai acteur, même s'il a tourné beaucoup de films, on va dire légers, mais c'est
extraordinaire les films avec Bud Spencer et Terence Hill.
Oui, non, mais il faut bah, évidemment que c'est extraordinaire, mais il faut pas croire qu'il n'est capable de faire que ça.
Ça me fait penser un peu de Bud Spencer et Terence Hill au demeuré quelque part.
Un peu. Je sais pas où.
Oui, on verra.
Non, mais c'est un type, il a été champion d'Europe, je crois, de natation en Italie. Il a fait le tour du monde.
Champion d'Europe de natation en Italie.
Oui, non, mais parce qu'il est italien d'origine. Il est italien, oui, j'ai oublié son vrai nom parce que.
Non, mais bon, c'est je peux finir de parler de mon film.
Fais-nous ta conclusion.
Bon, d'abord, alors oui, donc je vous incite à aller voir ce film qui
si
est
vous,
vraiment.
Si vous trouvez une salle.
Si vous trouvez une salle, qui est très très poétique. C'est
alors vas-y, rappelle-nous le nom.
En chantant derrière les paravents.
Et vous l'avez vu où?
Nous, on l'a vu au 7 Parnassien.
Et ça passe encore.
Il passe encore. À Paris, il est encore au moins dans une salle. En province.
Donc au 7.
Il est à l'entrepôt à Paris.
À l'entrepôt à Paris.
Et en France, je sais pas, il y a peut-être une ou deux copies. Qui se promènent.
Et il est sorti quand?
Prenez un billet de train s'ils sont pas en grève.
Pas plus d'un mois, ouais. Il est sorti dans deux salles à Paris. Pas plus.
C'est un film qui a pas eu de chance.
Et des petites salles.
C'est un très bon film qui n'a pas eu de chance.
Peut-être à l'occasion
d'un voyage. Je peux finir de dire quand même que c'est vachement beau prévenir les gens que ça parle de Chine. Et ce qui est absolument étrange, ce qui fait bizarre, c'est que c'est tout en italien. Tous les dialogues sont en italien. Et ce qui apporte encore plus de poésie à l'affaire. Et ça joue entre le théâtre et un décor comme si on était vraiment rentré dans l'histoire en Chine.
Eh bien, écoute, tu nous en mets l'eau à la bouche et un tonnerre d'applaudissements pour Flo.
Allez le voir.
Bien créé. Ça va être à toi. Bon, t'es content, tu commences pas?
Oui, bah non, moi ça me dérange pas de commencer.
Oui, j'en ai marre, c'est toujours moi qui commence. Bah, t'avais une chronique qui s'appelait Je commence à.
Ah oui, d'accord. Oui,
il fallait que tu commences. Oui. Donc. Bon.
Bah là, aujourd'hui, je continue. T'écoute. Alors, comme je continue, effectivement, continue l'émission. Mais d'ailleurs, Béa m'a un peu coupé l'herbe sous le pied là avec sa description.
J'imagine.
C'est ça. Du bar. Avant, tu commençais donc tu pouvais dire ce que tu voulais.
Exactement,
là,
exactement. Mais c'est pas grave, je vais rebondir.
Bien
sûr. Je vais me débrouiller. Puis je vais peut-être passer un peu plus de temps sur un petit coup de gueule que je voulais justement pousser qui est hors thème. Mais quand même, hier soir, donc, je me baladais sur internet. Et je regardais les différentes news que je voyais.
Nouvelles.
les nouvelles, oui, autant pour moi.
On parlait, oh, on parlait plate, tout, bon, bon. Tout à l'heure.
Et je suis tombé sur un titre. Un patron américain oblige à choisir entre fumer et travailler. Alors, c'est une nouvelle qui me paraît sérieuse. La source,
les gens qui fument ne travaillent pas.
La source,
écoute-le.
La source, c'est Reuters. Donc, bon, a priori, c'est une agence de presse très sérieuse. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est véridique. Donc, il s'agit d'un. Si vous allez sur le portail de Free, vous pourrez voir cette news là, cette nouvelle, pardon, humain, et vous pourrez aller la lire. Donc, en fait, le principe, c'est quoi? C'est un patron qui force ses employés à faire des analyses d'urine, et ceux qui refusent ou ceux pour lesquels une consommation de tabac est détectée sont licenciés.
C'est effectivement très grave.
Mais on peut se shooter avec autre chose.
Alors moi j'ai trouvé ça mais hallucinant.
Mais c'est hallucinant.
Ça, mais là, le,
c'est
le, très grave. Donc a priori le droit américain laisse faire.
Alors il n'y a pas eu de plaintes qui ont été déposées.
Les
alors,
conventions collectives américaines, elle est bonne.
Le droit américain, c'est que si personne ne porte plainte, effectivement, il pourra pas être attaqué.
Et quelle raison il donne?
Alors, c'est pour le bien de ses employés. Sa
bah
raison,
oui, mais
c'est pour le bien de ses
c'est
employés.
Pas sa mère.
Ouais.
Écoute,
c'est
voilà.
Une atteinte à la liberté.
Et alors, ce qu'il a envie de faire, c'est que il veut faire la même chose avec le surpoids. C'est-à-dire qu'il veut obliger,
il n'aura plus personne.
Il veut obliger ses employés à maigrir. Donc son prochain objectif, c'est ça. Donc,
et c'est quoi
j'imagine
comme,
bien
comme
tous
comme
ses
type
employés.
De société
Alors c'est une entreprise du Michigan,
c'est
donc c'est à Chicago. Alors le nom de la société, c'est une société d'assurance.
Alors ils vont faire
voilà,
comment ils vont
ça.
Faire ils vont faire du vélo
d'assurance.
Devant leur
ils font des assurances vie et s'il y a des collaborateurs qui meurent d'un
non,
cancer du poumon,
leur...
ça fait des ordres. Moi je comprends.
Il a engagé un nutritionniste pour faire des cours de nutrition.
Ça a aidé, effectivement, il y a plein de grosses sociétés
voilà.
Qui offrent des aides à maigrir, des aides à arrêter de fumer, des aides à ceci, mais forcer et surtout surveiller.
Bah c'est plus que
c'est dégueulasse.
Plus que
ça,
c'est voilà.
Obligé.
C'est
alors
en fait,
liberté,
au départ, comment
impensable.
Il a procédé? Au départ, c'est les fumeurs avaient une pénalité. Puis $50, et c'est ça par mois. Avant de finalement instituer donc ces analyses obligatoires.
Oui, mais bon, ça,
donc
y a
pour
un,
le poids,
quelque
ce
part, il y a
pareil.
Quelque chose de rassurant. Il y a
mais
un jour
poids,
un de ses employés qui va aller le buter et puis.
et pour le poids,
bah,
ça va être
pas jouer comme
fun,
ça avec
fait,
les
là.
Gens. On ne sait pas
non,
de
non,
quoi
non.
Ils sont capables. Les gens.
Les employés
bien,
ont le droit d'aller voir.
C'est bien
voir.
Pour ça que je voulais pousser un coup de gueule là-dessus.
Non, non, mais enfin bon, pour le poids, je leur souhaite bonne chance parce que tous les fumeurs qui risquent d'en prendre un peu, ça va être drôle.
Oui, déjà. Il n'aura plus d'employés.
Il n'a pas de fumeurs. Ils ont tous été virés.
Bah, oui. S'ils ont été virés, oui, effectivement.
Ou
plus.
Alors ils ont arrêté de fumer.
Mais donc ils grossissent, donc ça a posé un problème pour le poids.
Donc pour maigrir, ils vont se mettre à boire.
C'était qui <ouais. rire> Et ben voilà, et ben parfait.
Donc
voilà,
transition tout
voilà
offerte.
Voilà la transition parfaite.
Mais je sais, je regarde beaucoup la télé, j'ai l'habitude.
Au bistrot.
Voilà, et voilà. Donc ce coup-ci, moi je vais parler des bistrots. Je vais parler des bistrots. Que je connais, les bistrots dans lesquels je suis allé et dans lesquels je m'y suis plus. Alors effectivement, entendons-nous bien, aller au bistrot ça veut dire quoi? Ça veut pas dire se dorer la pilule tranquillement pendant les vacances au ski, en bas des pistes, là sur une terrasse. Non, c'est pas ça aller au bistrot. Aller au bistrot c'est aller au comptoir, avoir ses habitudes, connaître le patron, connaître la patronne éventuellement, avoir ses connaissances et aimer taper la discute accoudée au comptoir. Pour moi, c'est ça.
En buvant des Orangina.
En buvant des Orangina ou
bien
autre,
entendu.
Chacun ses préférences.
Ou des diabolomantes.
Voilà,
oui,
un bon petit demi, un bon petit café du percolateur.
Le percolateur.
Bah oui. Bon, alors.
C'est plus fidèle que le Père Noël.
Mais. Mes premiers troquets, c'était évidemment quand j'étais lycéen, au collégien, peut-être lycéen, certainement. J'ai tout de suite aimé ces ambiances et j'étais probablement attiré par ces ambiances-là parce que justement, chez moi, chez mes parents, mais alors le bistrot, c'était le lieu de perdition, quoi. C'était complètement inenvisageable d'aller passer du temps là-bas. Donc évidemment, c'était en cachette. Et
mais ça rend beaucoup
ça
plus drôle.
Ça a certainement dû jouer dans le fait que j'avais envie d'y aller, justement, le braver un petit peu l'interdit, ce côté de faire la chose que, qu'on n'a oui, pas le droit de faire.
Maintenant, c'est la chose.
Alors aujourd'hui, je fais ce que je veux.
Tu l'as fait, ouais. Et alors, c'était comment?
Voilà.
La serveuse, elle m'a offert un demi quand je lui ai demandé.
C'était bien. Donc, pas de souvenir particulier quand même, à part les bonnes parties de Baby ou de flipper. Moi, j'ai jamais été très flipper.
Ah, mais... merci.
C'est bien,
ça coupe comme jeu.
Ah, mais si, moi, je préfère flipper parce qu'au moins, j'arrive à attraper des balles. Parce que Baby.
Par contre, j'étais billard, moi.
Voilà.
J'étais très, très billard à une époque.
Pareil, préfère aussi.
Voilà. Donc, mais la première fois où j'ai vraiment commencé à fréquenter, mais vraiment régulièrement, et à correspondre à la description que je faisais tout à l'heure de l'habitué du bistrot, ça a été une fois que j'étais étudiant. Et donc,
évidemment.
Bah oui.
C'est la deuxième maison des étudiants.
Voilà, la deuxième maison. Bah, il y a beaucoup d'étudiants qui sont
sérieux, fac,
entre guillemets. Mais voilà, la cafétéria.
Bah,
la
cafette.
Toi aussi, t'as fait des études de sciences avec une option sociologie.
Voilà, exactement.
au bistrot.
Exactement.
Où le demi n'est pas cher à la fac.
Mais en fait, c'est pas arrivé tout de suite. C'est au bout de trois ans. Ah, c'est pas vrai. Quand j'étais en première année, j'étais avec des amis et ils m'avaient déjà converti au bistrot en fait. J'étais en colocation avec des anciens qui étaient en cinquième année. Ils m'avaient fait connaître un petit bistrot.
En fait, t'as démarré vachement tard le bistrot. Moi, dès qu'on a eu le droit de sortir, pouf, j'y étais.
T'as vu dans quel état t'es maintenant?
Mais alors.
Flo, c'est deux choses distinctes. Aller au bistrot quand on est au lycée et après devenir un habitué du comptoir, c'est deux choses différentes.
Ben, moi, je sais pas, mais j'ai commencé tout petit avec mon grand-père.
Ah ben, pas moi.
Qui tenait un bistrot.
Oui, mais chez toi, c'était tabou, c'est pour ça.
Debout sur le tabouret.
Eh ben, bravo. Donc voilà, donc mon premier bistrot.
T'as appris à jouer.
J'ai appris à jouer.
Parce que moi je t'ai vu jouer, ça donne pas l'impression que t'as appris un jour.
Au flipper.
Mais ça c'est normal, c'est parce qu'avant il dépassait pas, donc il voyait pas trop ce qu'il faisait, c'est pas bien entraîné.
Ah d'accord.
Et maintenant il dépasse pas beaucoup plus.
C'est peut-être pour ça.
Et comme il a plus le tabouret, il perd.
C'est ta fête? Tu t'appelles Thomas d'Aquin toi?
Bah on dirait, c'est mon deuxième prénom.
Ah bon? Bon, bah alors mon premier bistrot à moi, c'était un petit bistrot de quartier. Ouvrier le midi, comme beaucoup, étudiant le soir, évidemment, un patron charismatique avec des moustaches pas possibles, une moustache, pas des moustaches. Parce que, voilà.
Tu peux le dire, noir aussi.
Non, c'est pas celui-là.
C'est après ça. Parce qu'il avait des moustaches aussi.
Oui. Est-ce qu'il avait une bedaine?
Oui, il avait une bedaine.
Ah, important quand même. Ah, pour le
du bistrotier, évidemment.
Bien sûr.
Des clients, des habitués, comme tu les décrivais tout à l'heure, des habitués pas possibles, évidemment, tout aussi charismatiques. Le flipper, les belotes, les soirées, les fins de soirée, les sourires en coin le lendemain des fins de soirée.
Oui, ça c'est ce que je préfère, le dimanche.
Voilà, bah, écoute.
Quand le patron raconte ce qu'il a vu.
Bah, un bistrot de ville de province plutôt, comme
bien
tu
sûr.
Disais tout à l'heure,
ouais.
Un bistrot de ville de province. Je viendrai après au bistrot de Paris.
C'est vrai que c'est pas pareil.
Et donc à Poitiers, dans une petite rue étroite, le patron là qui m'appelait mon petit Manu, pour pas me confondre avec le gros Manu, évidemment. Quoique aujourd'hui, je sais pas.
non, c'est bon, il reste de la marge, hein, je confirme.
Ouais,
bah maintenant, toi, on t'appelle Cray, et puis le gros Manu, on l'appelle toujours le Manu. Gros Manu.
Oui, c'est vrai.
Qu'on salue d'ailleurs, hein, s'il nous écoute.
Non.
D'ailleurs, on va pas en dire plus s'il nous écoute.
Je me souviens d'un habitué, là, un ancien, avec la bouille toute ronde, le visage tout ridé, pareil, avec une moustache aussi. Le vieux Jeannot, j'avais vraiment beaucoup d'affection pour lui. On finit par s'habituer aux autres habitués, on finit par avoir une certaine affection avec ces gens-là. Finalement, on discute avec eux comme ça. C'est vrai qu'on discute pas grand-chose, on discute de la pluie souvent, du beau temps, des choses comme ça.
Et puis finalement, ce sont que des relations uniquement dans le bar, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas poursuivies à l'extérieur, mais c'est vrai que ça compte.
Voilà, donc moi j'avais de la tendresse pour cet endroit-là.
Ça coûte.
Aussi.
Quand j'ai quitté Poitiers pour m'installer à Paris, peu de temps après, le bistrot a fermé. Le patron est parti ailleurs s'installer pour vivre dans un bistrot un peu plus calme en périphérie de Poitiers.
On voit pas pourquoi. Hein.
Pourtant, j'y avais fait des sacrées bringues, comme par exemple, c'est là-bas que j'avais fait maquis, j'avais organisé maquis à la fin de l'armée. Bah, tout le contingent était venu manger dans le bistrot, j'avais organisé un petit truc... avec le patron, c'était vraiment sympa.
Vous avez pas invité, nous ?
Moi, je m'en souviens pas.
Ouais, bah non, on était que le contingent. Hein. Tu pas l'armée avec moi ou...
Bah non, on a fait pire.
Avec toi.
Et voilà. Et bah, aujourd'hui, mon petit bistrot, il me manque encore. Il s'appelait La Joyeuse Marmite. Et c'est vrai qu'on rigolait bien. Donc,
ah là là.
Vous le connaissez aussi, certains d'entre vous. Ce bistrot, bah, Jean-Claude, si tu m'entends ou que tu sois aujourd'hui, bah, merci beaucoup pour tous ces bons moments qu'on a pu passer chez toi. Voilà, mon deuxième bistrot. Lui, je l'ai connu 2 ans après avoir connu le premier, toujours à Poitiers. Alors, j'y allais pas du tout pour les mêmes raisons. J'y allais pas pour une activité de comptoir ou de belote ou quoi que ce soit. J'y allais parce qu'il y avait une association étudiante qui m'a traîné jusqu'à ce bistrot-là.
Mmh. Et pas pour une activité de comptoir.
Et on y retrouve dans ce bistrot, finalement, aussi toutes les bonnes qualités d'un bistrot, les habitués. Là, avec en plus un baby-foot formidable. Mmh.
Et un flipper.
Un flipper.
Et le dessous du flipper.
Et un dessous flipper, effectivement, pour les gens un peu trop fatigués.
Et un jeu de l'enculette. Bon, enfin, oui, bon, ça, c'est. Ouais. Faut y être allé.
Les jeux de cartes, les belotes également. Donc, en fait, à la base, j'y allais pas pour l'activité de comptoir, mais petit à petit, eh ben, on finit aussi par s'y faire. Je me souviens d'avoir passé des après-midi entières à discuter avec la patronne, à jouer au rami, à me faire plumer au rami, parce qu'en plus, j'ai toujours été nul au rami. Voilà.
Ah aussi.
À y connaître aussi les habitués. Merci, ça fait plaisir. Voilà, des habitués. Je me souviens notamment d'un habitué, Lucien, qui me parlait tout le temps du mine de Nantes auquel il avait travaillé 20 ans avant moi, parce que moi j'ai travaillé aux mines de Nantes un été. Et donc depuis, il n'arrêtait pas de m'en parler. Donc et à chaque fois, il me racontait les mêmes histoires. Donc
c'est vrai que oui.
Le même disque.
J'ai oublié le radoteur. Ouais,
dans voilà, il y a le radoteur.
Il y a le radoteur.
Donc,
ouais.
Le bon moyen pour le débrancher, c'était de parler du FC Nantes, hein, parce que on parle beaucoup de foot aussi au comptoir. Voilà. Et ben j'ai pas de bol parce que j'ai pas de bol puis je suis pas le seul à pas avoir de bol évidemment parce que ce troquet l'Olympique donc à Poitiers l'Olympique Bar plus exactement voilà a fermé il y a
en
deux
fait,
ans
en fait partout
maintenant.
Où tu passes ça ferme
bah ouais,
c'est mauvais comme dire, oui, c'est tu portes la poisse comme
enfin, d'un autre côté il y a beaucoup de cafés qui ferment
à une voilà. Heure ou deux du mat
déjà.
Donc bah, les patrons, Pierrot et Minot, ils sont partis chercher ailleurs ce que leur bar n'a pas pu leur rapporter, hein, les ronds, faut bien que ça rentre, hein, c'est sûr.
Pourtant ils en avaient pas mal des ronds.
Voilà, je leur souhaite de réussir dans leur nouvelle vie. Voilà. Donc,
mais nous aussi.
J'ai connu évidemment quelques autres bistrots. Il y en a un autre à Poitiers là que je veux signaler, mais c'était pas à Poitiers même. C'était plus le bistrot de campagne, c'était à 10 km de Poitiers. Certaines personnes ici présentes le connaissent
également.
Rendez-vous
des chasseurs, non ?
Non, l'auberge de la Tour à Béruges, dont le propriétaire Jackie avait un cœur d'or. Vraiment, malheureusement, il nous a quittés. Il adorait la fanfare, il adorait qu'on lui joue le lion. C'est peut-être une caractéristique
des patrons de bar, qui nous acceptaient.
Voilà.
Qui nous acceptent.
Et tous ces patrons, ils acceptent, comme tu dis, beaucoup de choses. Ils ont accepté beaucoup de choses. Ils nous ont supportés. Et d'un autre
et ça,
côté,
c'était
ils nous
déjà
ont aussi beaucoup,
beaucoup
apporté. Voilà. Moi, ce que j'aimais, justement, dans ce bistrot de campagne, c'est une caractéristique, c'est que on croise tout le monde. On croise tout le village. On croise le maire, on croise le curé. Et oui, le curé de campagne, il va aussi
le
au bistrot.
Le maire de Béruges.
Et le curé de Béruges.
Voilà. Et je me souviens même d'une fois où j'étais bien en route dans le bistrot de campagne.
Alors
je me retourne
à l'orangina.
Et je commence à discuter avec un gars et je m'aperçois que c'était mon adjudant-chef. J'étais à l'armée à l'époque. Hop. Enfin, mon adjudant-chef, c'était un des adjudants-chefs de la caserne où j'étais. Alors depuis, évidemment, ça a complètement changé nos relations.
C'est vrai que le militaire aime bien rencontrer... Il devient beaucoup plus sympathique à partir du moment où il s'aperçoit que toi aussi, tu bois de l'orangina.
Et effectivement, comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a une grande mixité au comptoir du bistrot de campagne. Il y a les jeunes, bien
davantage. C'est un des rares endroits, effectivement, où ça regroupe tout le monde et où tout le monde peut se parler,
voilà.
Surtout.
Voilà, et en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est beaucoup moins le cas, en tout cas. C'est beaucoup moins le cas
dans les
Paris.
Grandes villes.
Dans les grandes villes, voilà. Alors, ouais. Les grandes villes, je les connais mal, mais en tout cas, je connais mieux les bistrots de Paris.
Ouais.
Et c'est là-dessus que j'embraye. C'est que à Paris, il y a vraiment des bistrots
à thème.
Beaucoup plus à thème, ouais. Beaucoup plus stylés, ou qui sont un peu répartis par catégorie de personnes, voire niveaux sociaux.
Ah oui, complètement. Il y a le bar à la mode, le bar chic.
Globalement, il y a quand même deux styles de bistrot. Il y a le bistrot de quartier et il y a le bistrot style brasserie. Oui. Donc avec les serveurs, notre papillon, machin, truc. Et sinon, bah, y a le bistrot un peu plus familial.
Et puis il y a aussi les bistrots de grands quartiers.
Oui, puis après, il y a les bistrots de nuit, tout ça, enfin... Mais
y en a quand même qui vont boire un coca ou un café au McDo sur les Champs-Élysées pour dire j'ai bu un verre sur les champs.
Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas si ça a vraiment effectivement un intérêt. Donc, notre bistrot, je dis notre bistrot puisque c'est le cas effectivement de tout le monde encore une fois ici. Parce
qu'on... Autour de cette table.
Autour de cette table.
Non, non.
C'est. D'ailleurs, je vais taire le nom de ce bistrot. Parce que.
Il n'en a pas besoin.
C'est une perle. Il est déjà bien plein la plupart du temps.
Non, parce qu'il ne boit
donc,
pas, lui.
Lui, il ne boit pas, mais le bistrot, par contre, il est plein.
Il est plein de gens pleins.
C'est encore une fois un bistrot ouvrier. C'est un bistrot d'étudiants. C'est un bistrot d'habitués. C'est un bistrot d'habitués qui sont essentiellement des anciens étudiants. C'est pour vous dire comment on y est bien. C'est qu'il y en a 20 ans après, ils continuent encore à y revenir. Alors, bistrot d'étudiants, parce qu'on y est accueilli chaleureusement, on s'y sent chez soi.
Bah oui, on se fait engueuler.
Bah oui,
on est chez soi.
Exactement. Bah voilà. Mais on se fait engueuler, et puis d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que entre le patron qui est hyper physionomiste, qui en deux temps, trois mouvements vous a repéré, c'est-à-dire que la troisième fois, il vous dit déjà oh bah t'as pas de quoi payer aujourd'hui, oh bah c'est pas grave, tu paieras la prochaine fois, c'est pas grave. Voilà. Et puis de l'autre côté, la mère assise à sa petite table à côté du comptoir qui vous fait « Ah, vous faites une note ? Oui, faut se dépêcher de payer hein, parce que les ronds, il faut que ça rentre.
Oui, » hein.
Donc voilà, je vous décris l'ambiance. On y est bien. On y est bien. Donc,
t'as des clients.
Voilà, c'est exactement ça. C'est un bistrot formidable. C'est un bistrot où tout d'un coup, vous allez voir passer tout un tas de fanfarons.
Des gens qui font de la fanfare.
Et là,
qui sont d'ailleurs aussi fanfarons.
Qui vont se mettre à passer derrière le comptoir, à ouvrir une porte du frigo et puis à disparaître à l'intérieur du frigo parce qu'en fait, c'est un escalier qui descend la cave. Et le patron, bah, super sympa, il permet aux fanfares d'aller répéter dans la cave en bas de chez lui. Alors, vous imaginez la tête des touristes quand ils voient comme ça toute une fanfare
soit descendre, soit remonter.
C'est vrai que remonter, ça fait plus drôle. Voir des gens sortir à 15
personnes qui sortent du
frigo. Qu'est-ce
que c'est que cette histoire?
Après, c'est, tu répètes dans quel placard, toi?
On y est bien, les prix sont imbattables. Vous avez un menu entrée plat dessert à 10 euros, une cuisine franchouillarde.
Oui, mais il faut aimer l'huile.
Faut aimer l'huile. C'est un peu gras.
L'huile d'olive.
C'est généreux.
C'est généreux.
Et c'est
bien servi. Et puis
voilà.
le demi à 1,60€ en plein Paris.
J'aime autant vous dire que le bistrot comme ça, on en trouve pas beaucoup.
Et l'orangina, il sait même pas.
L'orangina, on peut l'avoir en moisi.
Donc ça, c'est une private joke.
L'orangina, il y en a pas.
Vous voulez qu'on la raconte, la private joke?
Non, il est pas.
Ah bah oui, hein.
On peut la raconter.
On va raconter
la private joke. Donc un joli soir d'été dans ce bar en train de boire des Diabolo menthe. Un moment, trois sublimes jeunes filles rentrent dans le bar.
Charmante
et demandent au patron, monsieur, on va prendre trois oranginas s'il vous plaît. Et le patron répond, je suis désolé, j'ai pas d'orangina. Et les trois nanas se relèvent et disent, bon bah tant pis, au revoir. Donc vous imaginez, c'était vraiment, quand je dis trois sublimes jeunes filles, c'était trois sublimes jeunes filles. On n'en voit pas tous les jours des comme ça. Donc on l'a engueulé comme c'est pas permis. Mais tu pourrais avoir de l'orangina, bordel,
on
sait quoi ce bordel. Elles sont jamais revenues.
On le force à commander de l'orangina.
Mais depuis, il a de l'orangina. Et il nous le fait remarquer, mais elles reviennent pas. Donc on passe une annonce, mesdemoiselles, si vous nous écoutez. Dans ce bar où vous aviez demandé de l'orangina, maintenant il y en a, revenez.
Oui.
Parce que c'est pas nous qui allons le boire.
Ah bah si, on boit de l'orangina, mais bon...
Oui, mais il n'y a pas d'Alaska pour aller avec. Ouais, mais c'est bon avec l'orangina.
D'accord. Donc
pour conclure,
j'ai
quand même de la chance parce que depuis un mois, je travaille à 10 minutes à pied du bistrot en question.
Bon, ça va être mauvais pour ton régime encore. Hein.
J'y mange tous les midis.
C'est pour ça que ça fait 15 jours.
Ça fait un mois maintenant.
Un mois.
Non, mais
en fait,
je prends pas entrée, plat, dessert. Je prends qu'un plat, un café. Donc. Voilà, et ben en fait, j'ai jamais été aussi bien de ma pause du midi, quoi. C'est vraiment, c'est formidable. J'arrive, je prends mon plat, mon café au comptoir en vitesse avant de partir. Gloum, je repars, 10 minutes pour venir, 10 minutes pour repartir. Allez, une heure au total, c'est super. Alors ma mission, là, pour l'instant, elle doit durer un an. J'espère bien qu'elle va durer encore plus longtemps. Et puis, je sais pourquoi je continue d'aller au bistrot.
Et c'est pour ça que t'as arrêté de boire.
Ah non, mais regarde, là, j'ai même bu un peu de muscadet.
Non, de l'Orangina de Nantes.
Si, on a le droit de parler du vin, mais si.
S'il y a le vigneron, mais ça, on peut se démerder pour faire venir le vigneron, il est charmant.
Il faut pas inciter, il faut pas mettre en scène. C'est la loi E20, t'as le droit de faire de la pub pour du vin, mais t'as le droit de dire ça, c'est ce vin-là, nous on le vend, mais t'as pas le droit de le poser sur une table, enfin d'expliquer.
Tu veux dire qu'on a plus le droit de faire glou 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 comme on faisait un moment.
Mais c'est ça la loi E20, t'as pas le droit.
Enfin, mais c'est le dernier assouplissement de la loi E20.
Non, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des pubs pour l'alcool.
Non, il y a eu un assouplissement dernièrement.
Ils ont le droit de parler de la qualité du vin.
Oui, avant, oui, ils avaient pas le droit. Avant, t'avais juste le droit de poser.
Ça ne concerne que le vin.
Ah oui, que le vin, oui.
Que le vin, oui.
Bah oui, parce qu'ils ont subi la pression des vignerons.
De toute façon, on s'en fout parce qu'avec une bouteille de martini.
Et bientôt, ils subiront la pression des brasseurs.
Oui, ça viendra.
C'est drôle, ça, la pression des brasseurs. Non ?
Effectivement.
C'est bien trouvé.
T'as réfléchi avant, tu l'avais préparé ?
Non, même pas. C'est comme ça, c'est venu.
Naturellement.
C'est l'inspiration divine. C'est Dieu qui me l'a soufflé.
Et je rappelle que Dieu joue...
Il habite à Poitiers. Il joue de la grosse caisse.
Faux. C'est un breton.
Ah aussi ?
Oui.
Il y en a plusieurs. C'est pas possible.
Je le salue s'il nous écoute.
C'est pour ça qu'il y a toute cette merde à travers le monde, c'est qu'il y a plusieurs dieux.
Dont un breton.
Vous avez pas dit ?
Oui, mais c'est parce qu'il y en a un breton.
Ah bah oui, tout de suite.
C'est ça qu'il fout
enfin,
la merde.
Enfin bref, donc on va laisser Cray faire sa conclusion.
Ah bah ma conclusion, moi, elle a été faite, hein, c'était ça. Mais bon, bah, pour conclure, je peux dire que par exemple, je suis bien content que mes parents aient essayé de m'empêcher d'aller au bistrot, du coup j'en ai que plus envie d'y aller, puis je suis bien content d'y être allé parce que justement je continue à y aller.
Et puis voilà. Quelque part on peut dire que si on est tous assis autour de cette table, c'est parce qu'on vient d'horizons complètement différents et qu'on s'est plus ou moins rencontrés dans des bistrots quelque part.
C'est de leur
faute. D'ailleurs, si j'avais lu consciencieusement mes pages, je l'aurais dit ça à un moment. Comme je parle un peu essentiellement de mémoire sans relire mes notes, voilà, je suis passé à côté.
Bah, t'as la mémoire qui flanche.
Eh oui.
Voilà, et un tonnerre d'applaudissements. Sur cette petite musique douce, nous allons passer à quelqu'un de beaucoup plus calme en apparence, mais qui sait le tonnerre qui brûle en lui ?
Qui sait ?
Qui sait ? Numa. Donc tu vas nous parler de Cocor, et enlève ta main, je vois pas le titre, Le commun des mortels.
Voilà.
C'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
À 77 francs 90. Soit 11,88€.
Sur BDNet.
Sur BDNet.
Là, c'est bien, là.
J'espère que j'ai pas pillé ta chronique. Tu voulais dire d'autres trucs.
Non, ça, on s'en fout un peu.
Ah, d'accord.
Ça coûte 11€ maintenant, une BD ?
Ça dépend desquelles.
Ouais. Ça dépend lesquels.
Non, ton BD à 9,50.
Oh, ouais. Petit, j'ai acheté des boulets billes à 30 balles.
Ouais, bah, c'est ça. Ils sont à 9,50 maintenant.
Ils sont à 9,50 maintenant.
Les boulets billes ?
Moi qui essaye de
9,50
francs 9 euros. Ah.
Moi qui essaye de raccourcir les chroniques, je crois que j'ai tout gagné là.
Ouais, ouais.
Que le prix des BD augmente.
J'avais envie de gueuler juste pour le principe. Pourquoi c'est moi qui conclue ? Moi, je conclue régulièrement, moi.
Tu conclues régulièrement.
Bah, la prochaine. On ne pourrait pas faire
parce
autrement
que
finir.
Poème.
Ah oui. Non, mais ça me dérange pas. C'était juste pour sur le principe. Ouais. Moi,
c'est parce qu'on monte en puissance inverse.
Ok, d'accord. Donc, ben moi, je, ce soir, je voulais vous parler de Kokor. Donc, c'est un,
ça,
un auteur de bande dessinée qui a un vrai nom. Il s'appelle Alain Koch. Je sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit K-O-C-H.
C'est peut-être Alain Koch ou Koch.
C'est un peu comme Knock, mais sans le N, quoi, en fait.
Ou peut-être Koch peu, qui expliquerait ton Kokor.
Ce qui
c'est K-O-K-O-R. Kokor.
Ouais.
Non mais n'hésitez pas, moi j'aime bien les CD blancs.
Envoyez-nous bon, vos avis.
Donc
suggestions, oui.
Alors histoire de vous présenter donc sa dernière BD qui s'appelle Le Commun des Mortels. Donc on va commencer par le commencement, c'est à savoir qu'est-ce qu'on trouve chez Vents d'Ouest, l'éditeur. Donc c'est juste le petit paragraphe d'introduction de la BD, donc ça commence comme ça. En plus de ses qualités graphiques, Alain Kokor est un dessinateur au grand talent narratif drôle et attachant. Donc parce que forcément, comme ils présentent un auteur, ils vont pas dire qu'il est pas bon. Donc c'est normal. Donc après avoir réalisé plusieurs illustrations et bandes dessinées pour la publicité, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il signe plusieurs albums dont La Danse du Crabe. Il est vachement fort en titre. Ça me rappelle un petit peu Max Pécasse.
Ouais, c'est un émule de Max Pécasse. Ouais.
Je pense. Cité des mascottes. Bon, ça c'est donc publié chez Rackham. La série Phil Corridor. Il y en a peut-être qui connaissent. Ça c'est un scénario de Alf. Ça c'est chez Zenda. Et Poilala. Chez Staccano, ainsi qu'une nouvelle de recueil. Vous pourriez arrêter de parler autour de moi.
Non,
là.
C'est ton histoire de Max Pécasse. J'ai eu tout d'un coup envie de vérifier s'il était dans le dictionnaire du cinéma populaire.
Il y est. Mais non, j'ai regardé. Attends, tu m'étonnes. Ah là là. Donc, chez Staccano, il avait fait Poilala. Et il a fait aussi un recueil chez Alfred Hitchcock Présente aux éditions Vents d'Ouest. Voilà. Donc dernièrement, il a publié Balade dans la collection Intégra après Caddy, et parallèlement à la bande dessinée, Alain Kokor est également bassiste dans un groupe de rock.
Mais putain, tu sais,
ils ont fait des choses cet homme-là.
Je pense à ton Kokor, le Basile de Kok. On devrait prononcer Basile de Kokor aussi certainement.
Quand il est allemand.
Ça s'écrit pareil.
Il me semble.
Ah ouais. Et donc peut-être tu viens de là ton Kokor. Peut-être que lui, il prononce son nom Kok aussi.
Peut-être. Mais on s'en fout. Donc, c'est Le Commun des Mortels. J'ai trouvé, il y avait marqué tome 1, donc, mais je ne le retrouve pas sur la BD. Et comme c'est une histoire complète, j'ai rien compris. Donc, sur Internet, dans BDNet, il est à 11,88€. Il est publié chez Vents d'Ouest et c'est un roman graphique.
C'est parce que si tu es assez bête, tu l'achètes deux fois comme ça.
Un
tome
1,
tome 2.
Oui.
C'est-à-dire.
Il y a très peu de bulles.
Ben, je sais pas. Peut-être que vous allez comprendre quand j'aurai fini ma chronique.
Ben, écoute.
Ou pas. Alors donc qu'est-ce que ça raconte cette BD ? Alors donc perdu au milieu de nulle part, un petit bar hôtel attend le moment de son ouverture dans un mois quand Gus McColet, le barman, et Ladislas Quint, factotum de profession, auront fini les travaux de restauration. Alors évidemment, je vous vois l'air éberlué.
Oui,
factotum, qu'est-ce
voilà.
que ça que
qu'est-ce que c'est
c'est un agent de travaux dans.
Alors donc factotum, se prononce homme, donc comme je vous l'ai dit, donc j'ai pas dit factotum, j'ai dit factotum, donc j'ai été bon, j'ai eu de la chance. Hein. Donc au pluriel c'est factotum avec un s, jusque là ça va. Donc ça vient du 16e siècle de factoton. C'est une locution latine de la Renaissance, donc de fac, plus loin totum, donc ça c'est pour les latinistes, donc qui signifiant proprement fait tout. Donc c'est un homme à tout faire, employé qui, sans fonction précise, vaque à toute chose dans une maison, une entreprise, un domaine, etc.
C'est vrai que c'est plus joli comme mot que homme à tout faire.
Voilà, factotum. Moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai gardé, non, factotum.
Oui, moi aussi j'aime beaucoup. Ne regarde pas comme ça.
Hein. Et il y a un équivalent féminin.
Ouais, à technicienne de surface.
Une factotum. Mais non, j'en sais rien. C'était pas marqué. Et j'ai une
femme en fait.
Tu pensais à fac femme ou un truc comme ça, ou fac tonton.
Donc là, c'est la définition. C'est pas marqué sur mon truc. C'est la définition. Ça, c'est l'Académie française. Hein, c'est le dictionnaire de l'Académie. Donc Il n'y a pas mieux, là on peut plus rien dire.
Ouais, mais c'est l'Académie française, c'est pas l'Académie latine.
Ah ben non.
Donc ils ont pu se tromper.
Ben non.
Ben non, ben, continue alors.
Donc enfin seulement, donc ils pourront rencontrer le propriétaire qui les a embauchés parce que ils le connaissent pas. Vous avez compris?
Oui.
Donc il y a un mec qui est barman, il y a un mec qui arrive qui fait factotum et hop, ils connaissent pas le proprio du boboui qui retape. Voilà. Donc c'est dans cette atmosphère en huis clos que va commencer un face à face étonnant. Donc c'est-à-dire que les deux compagnons d'infortune ne se connaissent pas et pourtant ils ne semblent pas être ensemble par hasard. Les incidents domestiques qui émaillent la vie de Gus Colette, sont-ils provoqués, oui ou non?
Bah on sait pas.
Et par qui?
Et on sait pas non plus.
Ladislas? Le propriétaire? La mystérieuse factrice qui tous les jours apporte des lettres pour Alice McColette?
Mais qui est donc Alice McColette?
Bah ça faut lire. Et d'où provient la phobie des échelles de Ladislas?
Bah on sait pas non plus.
Bah ça faut lire. Donc voilà. Donc maintenant je vais... Ah ben non, ça c'est pour donner envie, parce que là ça pose des questions.
Ça donne envie, hein.
Ah, bah c'est bien ça.
Donc, si tu veux, on va te l'emprunter, la BD, vu qu'apparemment tu sais plus où ranger.
Je vais te jeter à la FNAC dès demain.
Non, mais c'est bon, je crois qu'il a déjà trouvé preneur.
Déjà?
Oui, le public.
Le public, d'accord. Il y a marqué sur ma feuille point de vue, ça veut dire que c'est mon point de vue.
C'est ton point de vue à toi.
Que j'ai écrit moi-même.
Oh bah écoute,
tu veux dire que tu as écrit quelque chose dans ta chronique, tu n'as pas fait que tout pomper?
Je demande. Non, c'est pas lui qui pompe dans le couple. je demande le plus grand silence, le laisser respirer et pouvoir nous faire son point de vue d'un trait. Vas-y.
Du cocor en couleur. Parce que jusqu'à présent, Cocor, c'était du noir et blanc. Donc, Cocor laisse tomber le noir et blanc et il joue avec la couleur de façon à l'insérer parfaitement dans son histoire. À son trait élégant et tailladé. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est moi qui l'ai dit. Ouais, s'ajoute l'alternance de cases, tour à tour monochrome, puis plus agressive, ce qui fait surgir de la planche l'objet choisi ou l'action. Voilà, l'exemple en est donné dans les premières pages lors du croisement d'un véhicule bleu et d'un orange. Donc, si vous voulez feuilleter,
effectivement,
c'est au début. Voilà. Ainsi, on est placé grâce au travail des couleurs de Cocor à l'intérieur du récit. Ça donne plein de matière, c'est génial. Parfois, sa vision se substitue à celle des deux protagonistes au cours de nombreuses cases. Donc, c'est à l'aide de plans, à l'aide d'aplats. Page 13.
C'est-à-dire?
C'est page 13. Merci.
Bah oui, mais...
Vas-y, montre à nos auditeurs la page 13. Mets-toi, mets-le bien devant la caméra.
J'adore faire ça.
Mets ton micro devant, ils verront.
J'adore faire ça. Alors, donc, page 13, donc nous avons Ladislas qui dit « Allons, étudier !» C'est l'ennemi, c'est d'abord, il faut l'étudier, le surprendre.
C'est comme ça qu'il cause.
C'est vrai qu'en fait, finalement, je me demande pourquoi c'est toi qui conclut.
C'est vrai, c'est vrai.
Je vois ce que tu veux dire par taillé.
Voilà. Et donc là, on voit le personnage. Et là, il y a un énorme faisceau qui surgit du projecteur qu'il a sur le front. Un faisceau rouge. Et il y a marqué « clic ». Ça veut dire que ça s'allume. La case suivante, il y a toujours le même faisceau en plus gros. Et là, on voit une fissure.
Là, oui, non, mais je suis témoin.
Non, c'est ça, c'est une fissure.
Je témoigne.
Et là, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il fait « Oh, sale bête! Ah !» Et hop, là, cartouche spéciale, il transpire.
Là, ouais, il transpire, il a la bouche grande ouverte, voilà, d'effroi.
Et il y a une goutte. Hop, plan de dos, gros vaisseau, et là, gros plan sur la seringue et la fissure.
Il comble la fissure en disant « PR, PR, R, R, PR, R, R, R ».
Il est de droite?
Non, il n'y a pas de R devant.
Bah si, au milieu.
Oui, mais il n'y en a pas devant. Non, sinon il y aurait R, P, R, 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 mais là il y a P, R, R, R.
Il y a un X sur la
seringue. De toute façon, ça n'existe plus.
Voilà. Donc, et ensuite, finition au couteau.
Case, et après, plus de fissure.
Case monochrome, plus de fissure.
Toute rouge.
Voilà une maudite fissure qui ne cavalera pas jusqu'au plafond. Enfin, pour le moment, sale bête.
Et vous, vous avez l'image. Hein. Moi, je l'ai pas.
Bah, t'imagines que t'es en train d'écouter l'émission.
Voilà.
Bah, c'est ce que j'étais en train de me dire.
Et alors, t'as compris ?
Ah bah, impeccable. Hein.
Non, parce qu'on va pas recommencer.
Et alors, est-ce que tu te mets sur la liste d'attente pour emprunter la BD ?
Alors donc, il y a mieux. C'est page 27, mais là, il y a plus du tout de texte. Mais par contre, il y a des appliques.
Il y a de plein de cases monochromes.
Voilà.
Mais il y a même une page, j'ai vu tout à l'heure, où il y a que ça.
De Kundivich, oui. C'est ça ?
Oui, mais après, c'était plus loin, non, j'ai pas voulu aller voir plus loin.
Le monochrome de Wattman.
C'est voilà. Kundivich ?
Non, c'est le mobile de Kundivich et le monochrome de Wattman.
Ah, merde.
Donc, tout ça pour dire que c'est vachement couillu comme narration, mais ça fonctionne quand même vachement bien.
Ça a l'air. Ouais.
Voilà, donc le scénario est... un petit peu déjanté et vaguement paranoïaque, mais pas plus qu'il en faut. Donc je me répète un petit peu, mais donc c'est deux inconnus au milieu de nulle part qui retapent un bar motel dans l'attente d'un propriétaire d'un propriétaire improbable. Donc c'est un huis clos.
Hypothétique.
Ils sont que deux. Mm-hmm. Parce que c'est un huis clos. Voilà. On y trouve des accidents, de la nostalgie, du fantastique, de l'humour et de la poésie.
Ah.
Très bien.
J'aime bien la poésie. Voilà. Dans le commun des mortels, donc moi j'ai ressenti donc les influences de Boris Vian, de Jacques Prévert, donc surtout dans le sens de l'humour et du décalage, les retournements de situation, les dialogues incisifs. Donc là forcément au niveau des exemples c'était un petit peu minable parce qu'il faut tout lire sinon on comprend rien. Voilà, donc c'est à dire qu'avec pas grand chose, c'est-à-dire deux personnages, un seul lieu, je me répète, mais c'est quand même super important. Cocor relate une histoire bien plus riche qu'il n'y paraît au premier abord. Parce qu'on pourrait dire ça va être nul, qu'est-ce qui va se passer, c'est nul. Voilà. Grâce à son sens, surtout de la mise en scène. Et comme ça, tu sais ce que je vais dire après, c'est
oui,
bien.
Oui, joli d'avance.
Voilà. Oui, ben tu remarqueras que je digresse. Donc, bien que l'intrigue ne soit pas trop épaisse.
À peu près.
Bravo pour la rime. Hein.
Que la fin puisse paraître un peu raccourcie, donc ça c'est juste une petite critique quand même. Négative. Il en faut. Ah bah oui, il en faut. Voilà, elle reste tout de même très poétique, bien qu'elle puisse paraître un peu tirée par les cheveux.
Elle est pas sur ouais, alors ça, la fin. En fait, elle ouvre plein de portes en fait.
Ah attends, je vais là.
Les cheveux. Il a écrit les cheveux. SHVEUX.
Mais c'est les cheveux.
Oui, les cheveux.
Sinon,
oui,
j'aurais dit les
écrit.
Cheveux.
T'aurais dit les cheveux. Donc t'as bien prononcé ce que t'avais écrit.
Voilà. Donc, là, donc pour Flo, je tiens à dire que j'ai mis que la fin puisse paraître. C'est-à-dire que c'est pour moi que ça peut paraître.
D'accord.
C'est mon point de vue.
C'est ton point de vue à toi personnel.
Voilà, donc cet album est la découverte d'un univers. Donc c'est vraiment très personnel. Pour moi, c'est deux nouvelles saveurs. Tiens, il n'y a même pas de S. Et puis, c'est pitoyable. Donc servi par un graphisme inhabituel. Voilà.
Mais non, c'est pas fini encore de.
Ah oui, bah oui. Donc c'est-à-dire, on entre de plein pied dans ce huis clos, un peu perdu et dérouté au début. C'est mené tambour battant par l'auteur. On en ressort la tête heureuse, des belles images dedans les yeux et une belle histoire dans le cœur. À lire si on le souhaite, découvrir de nouveaux parfums.
Eh bien,
J'ai eu très peur quand tu t'es lancé.
Un tonnerre d'applaudissements. Oui, oui, mais ce n'est pas fini. Mais il y a le poème. Le poète poète.
Oh, mais il est long cette fois-ci.
Oui, mais ouais. Apparemment, il n'est pas fini parce que quand on est arrivé, il a dit bon, ben vous arrivez, j'arrête.
Bah non, j'ai rajouté ça après.
Ah bah oui, ça aurait été dommage.
Bah t'as qu'à le lire alors.
Allez, vas-y.
Donc ça s'appelle Bistro parce que comme ça, j'étais dans le thème.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est un bon titre. Et on espère que le reste est du niveau du titre.
Là, je prends une lichette de jus d'orange.
Vas-y.
Donc,
jus de raisin.
À Paris 6e, les cuivres se déchaînent au bistrot, tenu par un gros qui a le cœur gros, mais rigolo. La fanfare qui meule, les clients qui feulent, c'est l'ambiance d'un petit rat de France où les gens tendance, puis Laurence. Les haricots au beurre, les choux-fleurs au beurre, le beurre au beurre. Secret d'une cuisine riche en vitamines, bonne mine. Les cruchons s'installent, les pots qui détalent entre amis, les gueules rosies, les visages souris, la salerie. Le temps, comme stoppé, la cloche a sonné, le dernier. Enfin presque.
Bravo.
Bravo.
Voilà.
C'est exactement ça.
Mais je veux dire un ouragan d'applaudissements. Eh bien voilà, c'était la 22e. Je peux pas m'empêcher, on a parlé de Max Pécasse et de ses titres. On en avait déjà parlé lors de la 3e. J'ai retrouvé quelques titres et je peux pas m'empêcher d'en redonner quelques-uns.
Oui, cite.
Donc Max Pécasse, qui était donc le roi des titres de films. Donc je cite. Marche pas sur mes lacets. En braille bidasse, ça fume. On est venu là pour s'éclater. Mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu. Les branchés à Saint-Tropez, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Je vais faire la blague de la fin aussi, mais vous avez déjà entendu la 3e, vous fidèles auditeurs. Et aussi, arrête-moi si tu peux. Ah non, ça c'est du Spielberg.
Ça marche à chaque fois.
Ouais, hein, quand même.
C'est bien. On peut réécouter la chanson ou ça fait chier?
Oh, on peut la mettre. On la mettra en fin, en générique de fin.
Ah ouais, c'est bien.
Oh, ouais,
ah,
ouais,
ça,
ouais,
c'est
ouais,
la
ouais,
fin.
Ouais,
hein.
En générique de fin, ouais, pour les masos.
Voilà, je sens que tout le monde n'est pas spécialement.
Fan.
Emballé.
Fan.
Oh, ah,
fan, fan.
Putain, vous savez pas.
Ah si, si, moi j'allais la réclamer hein, aussi.
Ouais. Donc, et aujourd'hui, public exceptionnel de personnes.
Bientôt oui, studio rare, complet.
Donc Ariane que moi je connais bien et monsieur Jean-Denis qui est apparemment un cousin de Flo.
Oui.
Voilà, musicien et qui vient pour nous aider à faire des chansons mieux, c'est ça.
Voilà, hein, c'est lui qui sera coupable après.
ça sera de sa responsabilité.
Je comprends pas je comprends vraiment pas ce qui te plaît pas.
Ouais, c'est bien.
Hein, franchement.
Bah, moi, je trouve ça
vous
bien.
Voulez dire un mot sur l'émission? Tiens, Béa, toi qui es à côté, Ariane d'abord.
Bah, pas grand chose sur l'émission, juste un tout petit oubli que je vais essayer de réparer en marchant sur les plates-bandes de Béa qui n'a pas cité la fabuleuse émission Palace qui passait il y a quelques années.
Avec les brèves de comptoir.
Et où nous avions effectivement Jean Carmet qui s'adonnait aux brèves de comptoir, donc le coude posé sur le comptoir et l'air à moitié.
Ah, j'en ai une.
Ivre mort, donc une petite, effectivement, la première qui me passe à l'esprit.
Avec un petit truc merveilleux.
40% des accidents de la route sont créés par des. Non,
20%.
40%.
C'est 20%.
Alors 20% si tu veux. 20% des accidents de la route sont le fait de gens qui ont bu. Et 80% des accidents de la route par des buveurs d'eau, c'est énorme.
Et tu peux en faire une autre?
Eh ben, je vais la laisser à Cré, parce que Manifesto.
Non, c'était la même.
C'était la même. Ah ben c'est vraiment la première qui vient à l'esprit. Elle a donc
moi,
marqué.
Moi, j'en ai une autre. C'était. Alors, il y a les globules blancs. Il y a les globules rouges. Mais les globules rosés,
on n'en parle pas. Et ce type, un vrai iceberg, 10 fois plus con que ce qu'on voit.
Ah, donc pas de petite brève de comptoir pour Jean-Denis.
Voilà.
Apparemment,
je suis très timide.
Donc Jean-Denis,
il fait son timide. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément.
Alors Jean-Denis, l'émission, je t'ai vu bouquiner des BD pendant toute l'émission. Apparemment, ça t'a passionné.
Non, j'écoutais aussi. Je peux faire deux choses à la fois.
Ah bah écoute. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé?
Non, j'aime bien, je connaissais pas du tout. Non, franchement, c'est bien.
Tu veux dire que tu n'as jamais écouté Quoique, malgré tous les flyers, toutes les adresses qu'on t'a
données? J'ai pas internet chez moi, je suis encore...
Ouais, mais enfin, c'est pas une raison. Hein,
Je fais une rectification, je viens pas corriger les morceaux, je viens aider à refaire les boucles de batterie.
Quoi, qu'est-ce qu'elles ont, les boucles de batterie?
Voilà.
On va écouter ça.
Bon, bah voilà, donc je tiens aussi, comme d'habitude, à resignaler que les jingles ont été faits par monsieur Yann Beaujouan.
Qui s'est fait de la musique, lui.
Voilà, qui cet enfoiré m'a pas dit avec quoi il faisait tout ça. Donc Yann, enfoiré. Si, vous le connaissez pas, il n'y a que moi qui... Non, toi tu le connais aussi, Ariane.
Enfoiré, mais merci
Merci quand même, très bon jingle. Et je vais aller de ce pas te téléphoner pour savoir comment tu fais.
Bah, peut-être avec des vrais instruments.
Aussi, non, mais il a des trucs, enfin bref. Et donc, nous allons refinir.
On va refinir, ça veut dire qu'on avait déjà fini avant et on fait refinir.
On va repartir
fois.
Sur les demeurés.
Ouais. Et avec les demeurés.
On conclut. Au revoir.
On va clore l'émission.
Non. Puis on fait au revoir.
Au revoir, oui. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Peut-être. Je vous aime.
Ah bah là il me dit des saloperies, donc on va y aller comme ça.
Un matin de semaine, d'un tonneau rebondit sur le sol d'un ché, il naquit un meuret. Ce doux jour de semaine, d'une barrique surgit, et bien qui aimerait, et voilà demeurer. Quand les demeurés sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, ils n'avaient de se mouvoir pour y boire. À chaque anniversaire de l'un des demeurés, l'autre des demeurés offre une boîte à meurer, les oranges et puis bleus, et quand la boîte fait meu, tout le monde est heureux au village des meurés. Quand les demeurés sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, ils n'avaient de se mouvoir pour y boire. Quand en brinque ils partaient, buvant blanc après blanc, ils en buvaient tellement, finissant au beurre blanc.
Et demeurer au beurre blanc dans la scène,
puisque les demeuraient toujours gais, quand en brinque ils partaient. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, ils n'avaient de se mouvoir pour y boire. Un jour sans avoir bu, se rendre au PMU, bêtement il mourut.
Oh.
Et puis l'autre meurait, qui n'avait pas plus bu, puis meurait tout mouru, à son tour il périt.
Oh.
Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire. Un matin de semaine, d'un tonneau rebondit sur le sol d'un ché, il naquit un meuret. Ce doux jour de semaine, d'une barrique surgit, et bien qui aimerait, et voilà demeurer. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire. Chaque anniversaire de l'un des demeurés, l'autre des demeurés offre une boîte à meurer, des oranges et puis bleus, et quand la boîte fait meu, tout le monde est heureux au village des meurés. Quand les demeurés sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire. Quand en brinque ils partaient, buvant blanc après blanc, ils en buvaient tellement, finissant au beurre blanc.
Et demeuraient au beurre blanc dans la scène,
puisque les demeuraient toujours gais,
quand en bringue il partait. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire. Un jour sans avoir bu, se rendre au PMU, bêtement il mourut. Oh. Et puis l'autre meurait, qui n'avait pas plus bu, puis meurait tout mouru, à son tour il périt. Oh. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire. Quand les demeuraient sous un cyprès, si près du bar, que j'avais besoin, il n'avait de se mouvoir pour y boire.